Messieurs, dames, bonsoir. Bienvenue à tout le monde à ce conseil communautaire. Messieurs, dames, le quorum étant atteint, nous pouvons démarrer cette séance clairsemée du Conseil communautaire. Donc, nous avons un ordre du jour qui est très chargé. J'ai demandé à ce que les rapports soient présentés succinctement et par bloc, certains, vous verrez. Donc, si personne n'y voit d'inconvénient, je vous propose de procéder comme ça, en sachant que s'il y a des questions, nous prendrons le temps, bien sûr, d'y répondre. Donc, premier point à l'ordre du jour, approbation du dernier PV. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Un commentaire, Laurent Dupont.
Oui. Donc c'est toujours sur le fait que il n'y a pas de PV écrit, quoi. C'est-à-dire que quand on avait mis en place la bande audio sur le site internet, il avait été cité l'exemple de Clermont-Lérault, qui avait expérimenté. Alors ils l'ont fait qu'en 2016. Hein. Après ils l'ont pas reproduit, mais néanmoins sur le site de la commune de Clermont-Lérault, on trouvait la bande son, la bande audio, plus un PV en PDF qu'on pouvait télécharger. C'est vrai que je trouve que là ça. Pour moi, la bande son, c'est juste une réécoute du conseil communautaire. C'est pas un PV pour moi, et donc je voterai contre.
Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, il n'y a en PV, il n'y a que la bande son, hein, ce qui est tout à fait normal, légal. Mais c'est vrai que c'est différent du papier. Et, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous suffit? Oui, bien sûr. Hein. Mais vous n'en pensez rien. Bon, on verra hein, ce qu'on peut faire. Pas de problème. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou d'autres questions? Eh bien, est approuvé. Ah. Contre. Ok. Point numéro 2, 3 et suivant. Donc, on les passe assez rapidement. Je passe la parole à Claude.
Oui, bonsoir à tous. Avant de commencer par le point 2, je voudrais juste vous informer que suite aux intempéries, on a eu quelques petits soucis sur Lacoste, où depuis une semaine on alimente avec des bouteilles d'eau potable. Enfin, Lacoste, Massonade. Lacoste aussi, ouais. Et ensuite, donc c'est réglé demain, normalement, si tout va bien. Il n'est pas au courant. Vous n'entendez pas? Ah, il faut parler plus dans l'esquimau, alors. Ou moins. Bon, je parle moins dans l'esquimau, vous entendez là? D'accord, excusez-moi. Donc je disais simplement que suite aux intempéries, nous avons eu quelques petits soucis sur Lacoste, et que depuis une semaine on alimente en eau en bouteille, et que ça devrait être, si tout va bien, réglé demain. Ensuite, on a eu un petit souci également sur la station de Fontes qui a été noyée, et c'est en cours de règlement, on est en train de finir les derniers bouclages. Voilà, je tiens à vous tenir au courant de ce qui s'était passé, et nous allons donc attaquer par le point 2 de l'ordre du jour. Alors je vais vous faire un lot. Hein, voilà. Donc nous avons, parce que je suppose que vous avez tous lu les rapports en détail, donc on peut y aller, quoi. Voilà. Dans le point 2 concernant l'eau et l'assainissement, c'est l'approbation des rapports annuels du délégataire à la Pérétoise des eaux. Donc je vous lis l'article pour une fois, moi ça sera fait. Dans l'article 52 de l'ordonnance concession dispose que le concessionnaire produit chaque année un rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution du contrat de concession et une analyse de la qualité des ouvrages ou des services. Lorsque la gestion d'un service public est déléguée, y compris dans le cas prévu au 3 de l'article 6 de la présente ordonnance, ce rapport permet en outre aux autorités concédantes d'apprécier les conditions d'exécution du service public. Donc il est proposé aux membres du conseil communautaire d'adopter les rapports annuels 2018 des services de l'eau potable et de l'assainissement collectif, si annexé, transmis par le délégataire territoire des eaux.
Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Qui est contre, s'abstient? Je vous remercie. Point suivant.
Toujours pareil, au assainissement, alors là, c'est la délégation avec la SOR pour l'année 2018. Vous savez tous que cette délégation se terminera fin 2021, mais pour l'instant, on a le rapport 2018 à approuver. Toujours pareil, vous l'avez tous étudié, donc je dis, monsieur le Président, si vous voulez mettre au voix.
Pas de questions, qui est contre, qui s'abstient, je vous remercie. Point numéro 4.
Point numéro 4 porte donc sur l'approbation des rapports sur le prix et la qualité du service, toujours pareil, là c'est pour la Perétoise des eaux. Donc est-ce que je vous lis le détail ou pas?
Normalement vous l'avez lu, est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions particulières, qui est contre, qui s'abstient, je vous remercie. Point suivant.
Toujours pareil, au assainissement, de l'approbation des rapports sur le prix et la qualité du service. Comment? Ah, il y avait une main levée, pardon.
Quelqu'un? Oui, pardon, je t'ai pas vu. Merci.
Tout simplement, il faut lire les rapports. Hein. C'est vrai que c'est long, c'est un peu indigeste, oui. Mais ça ne reste. Mais il faut l'éditer. C'est plus facile. Ça ne reste que des rapports, comme tout rapport. C'est long, compliqué, fastidieux, on le sait, on l'avoue. Mais voilà. Le roi du pomme.
Oui, au-delà de la lecture des rapports que j'ai lus, ce qui manquait un petit peu, c'est, j'imagine que tous ces rapports ont été transmis ou ont été étudiés au conseil d'exploitation d'Interco. Et est-ce que tu pourrais nous dire, comme tu l'as fait tout à l'heure pour Lacoste et pour Frontex, est-ce que il y a eu des débats ou des échanges dont on peut tirer quelque chose de plus que le rapport?
Pas grand-chose, non. Non, il n'y a rien eu de spécial, sinon je vous le ramasse, quoi. Il n'y a pas de... Non, ça reste un rapport banal, classique où ça dit en gros que tout va bien pratiquement, quoi, voilà. Donc on en est, j'en étais où, pardon, excusez-moi, c'était lequel, le point 5. Donc oui, ça concerne donc là l'approbation du rapport sur le prix et la qualité du service pour Clermont-Lérault, Nébian et Villeneuvette. Donc toujours pareil, je vous évite le détail, vous l'avez lu.
D'autres questions? Qui est contre, qui s'abstient, je vous remercie. Point numéro 6.
On continue donc avec le service Spang, toujours pareil, un rapport sur le prix et la qualité. Rien de spécial à signaler sur ce rapport non plus. Ça fonctionne, ça s'équilibre, tout va bien.
Pas de questions particulières. Qui est contre, qui s'abstient, je vous remercie. Point numéro 7.
Point numéro 7, donc toujours pareil, le même rapport, enfin pas le même, mais... Même système, c'est l'approbation des rapports sur la qualité et le prix du service concernant la régie intercommunale Interco. Donc, je rappelle que tous ces rapports ont été présentés à la commission au assainissement et que ça a été validé sans problème. Voilà.
Sur le point numéro 7, pas de questions. Qui est contre, qui s'abstient, je vous remercie. Point numéro 8.
Alors, au assainissement, là, c'est la réhabilitation des réseaux d'assainissement et d'eau de la placette d'aspirant. Donc il est proposé de réhabiliter les réseaux de la placette en réalisant les travaux suivants. Donc c'est le renouvellement du réseau de distribution d'eau potable et des branchements d'eau potable, le renouvellement du réseau d'assainissement et des branchements d'assainissement, le montant hors taxe est de 124 500 euros répartis de la façon suivante. Pour les réseaux d'eau potable, 55 450 euros, pour la réhabilitation du réseau d'assainissement, 69 050 euros hors taxe. Donc il est proposé au membre du conseil communautaire d'adopter les projets de travaux suivants pour un montant de 56 450 et 69 050 de s'engager à réaliser ces opérations sur les réseaux d'eau potable et d'assainissement selon les principes, bien sûr, de la charte qualité des réseaux d'eau potable et d'assainissement de Languedoc-Roussillon. De s'engager à mentionner dans les pièces du dossier de consultation des entreprises que l'opération sera réalisée dans le respect de la charte qualité des réseaux d'eau potable et d'assainissement en Languedoc-Roussillon, de solliciter auprès des partenaires financiers l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse du conseil départemental de l'Hérault et de l'État pour la DETR une subvention la plus élevée possible, et d'autoriser le conseil départemental de l'Hérault à percevoir les aides de l'agence de l'eau en application de la convention de mandat Les Lianes.
Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Pas. Ce sont des demandes de subvention.
Que des demandes de subvention qui arrivent.
Donc, qui est contre, qui s'abstient, je vous remercie. Point numéro 9.
Ensuite, la réhabilitation des réseaux d'eau et d'assainissement tranche 2 à Cabrières. Toujours pareil, une demande de subvention. Donc, les eaux claires parasites ici collectées provoquent donc des rejets directs d'eau usée non traitée en milieu naturel, des perturbations de fonctionnement. Le volume susceptible de surversé a été estimé à 856 mètres cubes jour, ce qui est énorme, pour une occurrence bimestrielle de 29 mm. Donc voilà, il faut refaire ce système-là. Je vous donne les montants. Le montant total est de 305 000 euros hors taxe. Donc pour l'eau potable, 134 423 euros hors taxe. Et pour les réseaux d'assainissement, 170 577 euros hors taxe.
Est-ce qu'il y a des questions? Pas de question particulière. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Demande de subvention. Point numéro 10.
Point numéro 10. On est toujours pareil. Des réseaux à réhabiliter, tranche 2 à Canet. Pour la grande rue, la grande place et quelques petites ruelles. Pour un montant, donc, de demande de subvention qui est de 424 532 euros. Le réseau d'eau potable pour 274 877 et le réseau assainissement pour 149 655 euros.
Pas de question particulière qui est... Oui, une question.
Oui, bonsoir. Alors, c'est pas parce que c'est tombé sur Canet. C'est parce que depuis un moment, je dis je vais la poser quand la question. Donc, vous avez collecté, bien sûr, les fonds sur la consommation d'eau et d'assainissement. Il doit y avoir donc un chiffre qui doit être donné très prochainement, je pense. Et donc, la question, c'est tous les investissements qu'il y a. Déjà, on espère combien de subventions pour chaque montant que tu es en train de donner.
Ça, on ne le sait pas. Le montant, alors, aujourd'hui,
on le sait à peu près. Non, c'est 20, c'est, 25,
non,
c'est quoi?
Non, c'est très compliqué à dire. C'est très compliqué à dire parce que, suivant le dossier présenté, en fonction de l'étude diagnostique qui a été faite, si ça a été intégré dans le contrat avec la région, avec l'agence de l'eau ou pas, on va voir comment ça évolue. En fait, ça peut arriver, il peut y avoir des montants qui vont arriver à 60 à 80% et puis d'autres qui vont rester à 50 ou à 60.
Donc là, d'accord. Oui, mais je comprends la complexité. Ouais. La complexité, pardon. Donc, cette question est d'ordre très général sur tous les points qu'on est en train de passer en ce moment. Est-ce qu'on va avoir les financements avec la collecte qu'on a eue dernièrement? Est-ce qu'on va avoir les financements pour financer tous ces travaux? Voilà,
oui,
c'est tout.
Oui.
En sachant que, donc, il va y avoir des montants complètement différents sur les subventions, voilà.
Tout à fait, mais on a fait une estimation, au minima, comme on fait partout dans tous les budgets, de recettes de subventions. Et on a budgétisé la totalité de l'investissement.
Et on est sur un plan pluriannuel aussi, hein, donc il y a un schéma qui arrive là, donc, et on est en train aussi de terminer des opérations là, de mettre en marche des opérations qui étaient déjà prévues par les communes, donc... budgétairement, il est bien évident qu'il n'y a pas de souci.
Bon, c'était Canet.
Mais c'est bien d'avoir cet éclaircissement. Très bien. N'hésitez pas à poser des questions. Hein. Donc, sur la demande de subvention pour Canet, qui est contre, qui s'abstient, je vous remercie. Point numéro 11.
On continue toujours dans le même style, hein, demande de subvention pour la réhabilitation des réseaux d'eau et d'assainissement du centre historique à Uskla-Zéro. Donc c'est pour un montant total de 285 000 euros hors taxe.
Pas de questions. Qui est contre, qui s'abstient, je vous remercie. Point numéro 12.
Point numéro 12, réalisation des travaux de raccordement en eau potable à la commune de Lacoste, Clermont-Lacoste, pardon. C'est toujours une demande de subvention pour un montant de 909 542 euros. En fait, on essaie de sécuriser la Coste.
C'est sécurisé, oui, tout simplement. Pas de question particulière. Oui, monsieur le maire.
Oui, merci. Quelques commentaires quand même, parce que vu la somme, on a passé énormément de temps avec Interco pour essayer. On a étudié 3 schémas. Il faut quand même voir pourquoi on arrive à cette somme-là. C'est que premier schéma, c'était nous, celui qu'on avait envisagé, c'est de se raccorder sur le tuyau qui arrive de Fontchaude, mais il est trop vieux et trop petit et il ne supporterait pas les à-coups de pression. Donc ça, c'était oublié. Deuxième hypothèse, grimper à travers, parce que ce qui coûte cher finalement, c'est la distance et le d'ouvrir une tranchée sur une distance pareille. Passer à travers la calade qui monte directement à la coste. Mais quand vous regardez comment s'est fait une calade, parce que c'est une vraie à tout en rocher et inaccessible aux machines, donc là aussi, même à la main, c'était absolument infaisable. Donc il reste l'hypothèse de la route, qui fait 2 kilomètres et des poussières. Donc il restait que celle-là. Pourquoi je voudrais vous en reparler, c'est que on va ouvrir de nouveau cette route qui vient d'être ouverte il n'y a pas si longtemps à cause de la fibre, qui avait été ouverte il n'y a pas si longtemps avant pour passer le téléphone, ce qui fait que, en plus, la fibre, elle traverse dans tous les sens, donc c'est un chantier pas simple. Et j'avais suggéré à l'Interco, mais manque de peau, ça se positionne pas dans le temps, c'est que tant qu'à faire, et puisque c'est envisagé dans le futur, tant qu'à faire de passer un tuyau, est-ce qu'on pouvait pas passer la canalisation qui va servir pour les eaux usées? Malheureusement, il semble que, au point de vue planning, ça se présente pas bien, ce qui veut dire que d'ici 2, 3, 4, 5 ans, je sais pas, on rebelote, on réouvrira cette fichue route pour passer un autre tuyau. Et c'est vraiment dommage.
C'est ingérable, monsieur. Et c'est vraiment dommage parce que les fils, les tuyaux, le tuyau eau potable, etc. On le vit tous, c'est dramatique, ça. Bon, par contre, tu parles du montant. C'est vrai que le montant est important, mais on est en train de raccorder une commune, pas un quartier ou pas un coin. Hein, donc, le montant n'est pas surprenant non plus.
Normalement, les subventions devraient être bonnes parce qu'on sécurise une commune aussi. Hein. On est sur un projet intéressant pour l'agence de l'eau.
Pas d'autres que remarques ou questions, donc on passe au vote. Qui est contre, qui s'abstient, je vous remercie. Point numéro 13.
Toujours pour Canet, je le dis pour... Toujours pour Canet, donc là c'est le raccordement aux installations existantes du nouveau champ captant du clocher à Canet. Donc le montant total est de 474 006 euros. Voilà quoi. En fait, l'ARS nous a imposé de faire 2 forages supplémentaires que je me serais passé puisqu'il y en a un qui existe déjà, qui pompe 200 cubes au jour. Mais comme c'est un forage, parce que là je vous l'explique, parce que ça il faut être au courant de ça quand même. On a 2 forages sur le site qui suffisent à alimenter Canet. On a dépassé la DUP, donc il m'impose de faire 2 forages supplémentaires. Malgré le forage de reconnaissance qui existe, qui est raccordé et qui pompe 200 cubes heure. C'est celui qui me sert en dépannage l'été. Il m'impose de faire 2 forages supplémentaires qu'on a réalisés au même endroit. Donc on a 4 forages sur 20 mètres carrés. Et le 5e de reconnaissance qui est 10 mètres plus loin. Le problème qui se passe, c'est comme il faut rajouter 2 forages au niveau du câblage électrique, c'est pas suffisant. Donc ça fait une plus-value de 180 000 euros pour raccorder de nouveau des câblages. Voilà un peu où on en est, quoi. Des fois, ça fait rêver. Mais bon, donc, a priori, on sera quand même assez bien financé, puisqu'on l'avait déjà demandé avant de faire le transfert à la communauté de communes, et c'était à les tablettes aussi, quoi.
Des remarques? Oui.
Donc, voir, puisqu'on n'a quand même pas de très bons chiffres par rapport à ça, et je voulais savoir un petit peu ce que vous envisagiez de faire, s'il y avait un programme qui s'établissait par rapport à ça, comment vous alliez procéder, parce que...
Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on attend déjà le rapport définitif de toutes les études qui sont en cours, par commune, pour savoir les réseaux qui fuient, les fuites éventuelles sur les secteurs. Et à partir de là, on va faire un programme d'urgence pour solutionner les problèmes au fur et à mesure.
D'accord.
Mais bon, on est obligé d'avoir l'étude des diagnostics des réseaux. Alors, il y a des communes où c'est fait, je prends l'exemple de Canet, où on sait aujourd'hui, et l'agence de l'eau va suivre parce que l'étude avait déjà été faite, il y a des communes où c'est pas fait. Donc on sait qu'on a un delta où on a de la perte d'eau, mais on est obligé d'attendre l'étude des diagnostics pour savoir exactement où on va et en priorité.
Oui.
Voilà, parce que si on le sans cette étude-là, on n'a pas de subvention qui vont derrière. Alors que quand on sait où est la perte d'eau, on peut avoir des financements intéressants.
D'accord.
Toutes les demandes de subvention par rapport à ces travaux contribuent à économiser des pertes, hein. C'est le but du jeu. Hein. C'est pas du réseau neuf, quoi. Hein. Sauf Lacoste qui est un cas particulier, là, puisque c'est pour alimenter la commune. Donc sur le point numéro 13, s'il n'y a pas de questions ou de remarques, qui est contre, qui s'abstient, je vous remercie. Point numéro 14.
Mourèze. Donc là c'est pareil, demande de subvention pour la réalisation de nouveaux forages sur Mourèze, pour un montant de 139 740 euros. Je trouve que ça fait cher pour Mourèze, mais bon. Voilà, donc...
Bien, sur ce rapport par rapport à Mourèze, qui pas de remarques particulières, qui est contre, qui s'abstient, je vous remercie. Point numéro 15.
Et on continue dans les demandes de subvention, donc pour la création d'une station d'épuration et d'un réseau d'assainissement collectif dans le hameau de Malavieille, pour un montant de 253 868 euros.
Pas de questions particulières. Oui, Laurent Dupont.
Je vous ferai remarquer qu'il y a le mascané aussi au milieu là-dedans.
Oui, tu as évoqué les études qui étaient en cours, et donc en fait ça fait référence aux deux schémas directeurs d'eau usée et d'eau potable qui sont en cours. Est-ce qu'il y a une échéance pour la livraison de ces deux schémas directeurs? Je me souviens plus ce qui avait été dit. Et puis le second point, c'est que bon, Pollan n'est pas dans la liste de toutes les communes qui sont citées ici, mais avec nos 21 km de réseau, faut pas penser que tout baigne et qu'on a besoin de rien. Donc j'imagine qu'il y a des études en cours aussi, des demandes de subvention pour Pollan, et j'espère qu'au prochain conseil communautaire on aura une délibération sur Pollan.
Mais il manque quinzaine de communes là.
On a des travaux qui vont démarrer sur Pollan.
Et oui.
Et c'est ça mal sous peu, il y a pas mal de travaux qui vont démarrer, et puis on finalise l'étude juste sur la station d'épuration entre Aspirant et Pollan. Alors on y est dessus.
Donc, pour répondre à Laurent, à partir de décembre, ne serait-ce que sur la liste du SCLAF, il y a 1 million de travaux. Voilà. Et au niveau de la perte en eau, on est, avec tout le travail qui a été fait, on est vraiment presque à 75% de non-perte en eau. Voilà. On est la seconde commune dans la communauté de communes de la bonne performance.
Bon élève, Paulin, c'est vrai ça. Pas d'autres questions, remarques? Qui est contre, qui s'abstient, je vous remercie. Et point numéro 16, GEMAPI.
La GEMAPI, donc dans le cadre bien sûr des travaux de la GEMAPI, nous avons la compétence à la gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations. Et suivant les orientations du SAGERO, la communauté de communes de Clermontais souhaite mettre en œuvre une seconde phase de travaux en rivière sur l'Ergue Aval. Donc une première tranche de travaux a été réalisée et mise en œuvre en 2019. La seconde tranche de travaux permettra d'intervenir sur des portions de cours n'ayant pas encore été entretenues. Ainsi, les travaux prévus dans la tranche 2 sont localisés sur les communes de Lacoste, Saint-Félix-de-l'Odès, Seyras, Clermont-l'Hérault, Brignac et Canet. Alors je peux vous faire le détail si vous voulez du chantier. Le tableau dessous présente le budget prévisionnel travaux et maîtrise d'œuvre compris pour un montant de 159 548 euros. Vous avez dessous le plan de financement, donc les travaux, vous avez donc en travaux 137 200 euros. Les financeurs sont l'Europe pour 26 932 euros. Pour les études, 10 000 euros, l'agence de l'eau. Au total, on a 159 000, et les financements, l'Europe 26 932, l'Agence de l'eau 63 472, la région Occitanie 31 910, et l'autofinancement est de 37 234 euros.
C'est la suite d'une programmation largement pluriannuelle et intercommunale. Pas de questions particulières Oui.
Oui, à ce sujet, je reviens sur quelque chose qu'on a déjà évoqué, mais il y a longtemps. C'est, on parle de la Lergue, mais on ne parle pas du tronçon du Salagou qui va du barrage à la lergue, qui doit faire quelques centaines de mètres. Sauf que lui, personne ne l'entretient, et on nettoie la lergue, mais tout ce qui arrive du Salagou, et au cas où il y aurait des déversements d'eau, il ne faut pas se faire d'illusions, tout le bois mort qui est le long du Salagou, il rentrera dans la lergue. Donc je me demande si au moment où on fait ce genre de travail, il n'y a pas quelque chose à regarder aussi sur ces quelques centaines de mètres du Salagou.
Tout à fait.
Je rappelle à ce sujet d'ailleurs que le pont lui-même qui avait trois arches, et sur les photos anciennes on les voit entièrement libres, aujourd'hui il en reste une et encore pas complètement vierge. Hein. Les autres, elles sont quasiment bouchées par les arbres. Donc voilà. Je pense que s'il y a des choses à faire dans ce coin, peut-être que c'est le moment ou jamais.
Ça sera programmé, ça aussi, puisque sauf qu'on n'est pas sur la Lergue, on est sur le Salagou, et il faudra changer de cours d'eau. Donc, mais ça se fera, puisque tout est prévu, de toute façon.
Oui,
hein. Budgétairement, par contre, vous savez que ça se passe sur nos fonds propres, hein, et pas sur la taxe GEMAPI, donc on avance à petits pas. Donc sur ce point qui est contre, qui s'abstient, je vous remercie et nous passons au point numéro 17, on change de rubrique. Gérald.
Alors là, ça concerne Mourez, donc c'est une demande de subvention pour le projet de Mourez que nous avons déjà évoqué, donc je ne vais pas vous refaire l'historique. Le coût du projet s'élève à 692 906 euros hors taxe et vous avez le plan de financement prévisionnel suivant. Donc derrière, vous avez tous les montants avec l'autofinancement, l'État, la région, le département, l'Europe. Donc il convient d'approuver ce projet, d'autoriser le président à solliciter la région Occitanie ainsi que l'Europe, fonds leader, et tout autre cofinancière potentiel pour le maximum de subventions possibles. Donc, M. le Président,
merci. Donc, je rappelle, hein, sur ce dossier-là, il s'agit, on avait déjà voté des choses, hein, mais comme on arrive à avoir un réajustement de coûts, on demande, en fait, on demande une rallonge d'aide et de subvention pour ce projet-là, qui est déjà voté. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions, des remarques? Nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Point numéro 18, Gérald.
Là, ça concerne la boutique de vente. Bon, c'est habituel, c'est chaque année. Hein. Donc, vous avez le livre Le Salagou, la planète rouge, avec le prix d'achat et de vente, et le livret sur le Salagou, planète rouge. Voilà, il convient d'en délibérer. Ça, c'est classique.
Pas, hein. Oui, pas de question particulière. Qui est contre, qui s'abstient, je vous remercie. Point numéro 19, services de partenariat.
Alors là, c'est des services de partenariat. Il y a des modifications d'offres et de tarifs. Et il y a deux packs. Donc, vous avez tout un panel dans ces packs. Je ne vais pas vous le détailler. Hein, vous l'avez lu certainement. Donc, et les tarifs qui sont à la page suivante. Donc, il n'y a rien d'extraordinaire. Hein, c'est courant, hein. Le pack 1 avec ses tarifs, le pack 2 avec ses tarifs, donc il convient d'en délibérer.
Est-ce qu'il y a des questions particulières? S'il n'y a pas de questions, qui est contre, qui s'abstient, je vous remercie. Point numéro 20, base de plein air du Salagou. Francis.
Donc c'est une convention, le point numéro 20, c'est la convention avec l'Académie de Montpellier pour l'organisation d'activités physiques et sportives en EPS à l'école maternelle ou élémentaire, voilà, impliquant les intervenants extérieurs rémunérés. Donc, c'est une convention qui se... basique.
Et le centre aquatique, le point suivant...
Le centre aquatique, c'est pareil, ça va à l'Académie de Montpellier aussi. Et sur le troisième, le 22, c'est aussi une convention à LSH, ça va la convention avec les collèges du Clermontais. Tout ça dans le cadre du PEGT. Voilà, donc entre 20, 21, 22, c'est des conventions que nous devons signer, l'une avec l'Académie, la seconde avec l'Académie et le centre aquatique, et la troisième avec le collège du Clermontais pour nos jeunes. Monsieur le Président,
il y a des questions, pas de questions particulières, je suppose. Donc, qui est contre et qui s'abstient pour ces conventions, je vous remercie. Point suivant, Claude.
Donc, contre l'affermage du service public d'eau potable avec la Perrétoise des Eaux, donc c'est pour l'approbation de l'avenant numéro 1. Donc, considérant, là je vous le lis parce que c'est un peu technique, considérant le transfert de la compétence eau assainissement en compté du 1er janvier 2018 à la communauté de communes du Clermontais, considérant la convention de délégation de service public soumise aux dispositions du décret du 1er février 2016 transférée à la communauté de communes, signée avec la Perrétoise des Eaux, Donc les tarifs, alors la part fixe eau 66 euros, la part proportionnelle délégataire eau 1,55 euros par mètre cube, et la part fixe assainissement 37 euros, et la part proportionnelle délégataire assainissement à 0,45 euros du mètre cube. Considérant les équilibres budgétaires des budgets annexes de l'eau potable et de l'assainissement collectif de la communauté de communes du Clermontais, il apparaît nécessaire de diminuer la rémunération du délégataire tout en diminuant d'un montant équivalent les travaux concessifs prévus au contrat. Ces modifications n'affectent pas l'équilibre économique de la concession du service public. Le projet d'avenant joint en annexe n'a pour objet que l'adaptation de dispositions techniques et juridiques. Donc, le montant des travaux concessifs passe de 1 420 000 euros hors taxe à 920 000 euros hors taxe. Là, voilà. Et ensuite, donc, la partie proportionnelle, la partie liée donc à l'investissement des travaux concessifs, pris en euros hors taxe par mètre cube assujetti, passe de 1,2679 par mètre cube à 0,9429 euros par mètre cube. Donc, le total de la partie proportionnelle passe de 1,55 euros le mètre cube à 1,225 le mètre cube. Ce soir, on fait des maths, ouais.
Et, ouais.
Et ensuite, donc, pour 2019, on va passer donc de 1,2679 à 0,7879. Et pour la partie proportionnelle, après, je vais vous le synthétiser, hein, on va passer de 1,55 à 1,07. Alors, en fait, techniquement, je vais essayer de vous le résumer sans tout ça. C'est basique, vous vous rappelez que la commune, enfin, la péréthoise des eaux devait à la communauté de communes, quand on a eu fait le budget, 27 000 euros, si mes souvenirs sont bons, hein. À un chouïa près, 27 000 euros. Donc après négociation, à la péréthoise des eaux, il a été convenu qu'on allait diminuer chez eux la part de travaux pour pouvoir équilibrer leur budget, et qu'on allait augmenter, dans le deuxième point qu'on va voir, et qu'on allait augmenter chez nous notre recette sur le mètre cube. Et avec ça, on arrive à équilibrer leur budget. Voilà, moins de travaux et augmentation du prix de l'eau, mais eux baissent leur prix de l'eau pour pas l'augmenter sur Perret. Ils touchent pas le prix de l'eau, quoi, le baissent, ouais. Enfin, oui, ils touchent pas le prix de l'eau, nous on leur prend plus et eux vont reverser moins à leurs actionnaires. Voilà, c'est les deux point de l'ordre du jour qui font qu'on équilibre en fait ce dont on avait parlé sur Perret et qui avait 27 000 euros de déficit. Voilà. Et c'est en accord avec la péréthoise des eaux.
Est-ce qu'il y a des questions? Non.
Non.
Ah non, non, baisse, non.
Puisqu'il reste 1 420 000 euros de travaux et qu'on les baisse à 920 000.
Non, non, il en manque pas mal.
Il y en a eu beaucoup, mais...
Pas forcément dans l'eau.
Pas forcément dans l'eau. Voilà. Donc allez. En fait, c'est ces deux délibérations qui font l'équilibre sur Perret. Un sur l'investissement, un sur le fonctionnement.
Perret est une commune dynamique.
Je vous lis pas la
surtaxe. Est-ce qu'il y a besoin d'autres explications? Oui, Claude.
Oui, mais c'est... J'étais parti sur les deux budgets, j'ai oublié de dire l'autre. Voilà. Sur l'investissement et sur le fonctionnement.
Il y en a un qui suit. Claude.
C'est bien, Claude.
Hein, Claude, très
bien. Non, mais c'est moi qui suis, excuse-moi.
Bien. Sur les deux points, hein, puisqu'ils sont vraiment complètement liés, qui est contre, qui s'abstient, je vous remercie. Et nous passons au point suivant, le point 25. Délégation service public. Avec la SOR.
Avec la SOR maintenant. Donc je vous rappelle pas tous les textes. C'est toujours le même système avec le CEPAC. Donc le mécanisme du transfert de droits de déduction de la TVA a été supprimé en décembre 2015 relatif au transfert du droit de déduction en matière de taxes sur la valeur ajoutée. Donc, la communauté de communes a choisi d'appliquer cette disposition avant la fin du contrat de DSP en cours et de récupérer directement cette TVA auprès de l'administration fiscale. En conséquence, les reversements de la part collectivité dite sur taxe sont assujettis à la TVA au taux normal.
Tu as des questions là.
La question, c'est basique. Avant, c'était la SOR qui récupérait la TVA et nous la reversait. Et maintenant, on va l'encaisser directement.
Tout simplement.
Voilà.
Qui est contre, qui s'abstient. Je vous remercie. Point suivant. On continue avec Claude.
Point suivant, donc, c'est la délégation, toujours pareil, avec une délégation d'affermage du service public d'assainissement collectif avec la SOR. C'est un avenant numéro 2. Alors, le mécanisme de transfert, toujours pareil pour la TVA. En conséquence, toujours, les reversements de la part collectivité dite surtaxe sont assujettis à la TVA au taux normal. Le CEPAC, puis la communauté de communes de Clermont-Tay, ont réalisé des travaux de modernisation de la station d'épuration de Clermont-Lérault pour 22 000 équivalents habitants. Ces travaux consistent à améliorer le fonctionnement de la station d'épuration et permettent la réception des matières de vidange et produits de curage par la création d'une unité de dépotage de matières de vidange, d'une unité de dépotage de produits de curage et d'un pompe bascule. Ces nouveaux équipements permettront aux entreprises de traiter localement ces sous-produits d'assainissement. Leur exploitation sera à la charge du délégataire à compter du 1er novembre 2019. Cette nouvelle charge d'exploitation nécessite la mise en œuvre des dispositions contractuelles de l'article 73 du contrat de délégation et notamment de son alinéa 3 qui prévoit le réexamen des rémunérations du délégataire, notamment en cas de modification substantielle des ouvrages. En fait, on rééquilibre, on fait des travaux, on réintègre ça dans le nouveau contrat, tout simplement.
Oui, madame.
Excusez-moi. Oui, j'ai vu effectivement en lisant le rapport sur l'assainissement qu'il y avait eu entre 2017 et 2018 une augmentation du capital dû de plus de 500 000 euros. Est-ce que ça correspond à aux travaux qui ont été réalisés dont vous nous parlez? Je vois capital dû en 2017 535 376 euros, capital dû en 2018 1 015 096. Donc il y a bien 500 000 euros d'écart. Est-ce que ces 500 000 euros correspondent aux travaux dont vous parlez?
Non, aux travaux non, ça c'est sûr. À un ensemble de choses, certainement, mais
pas... J'enregistre votre demande, on vous le ressort là dans 5 minutes, parce que j'ai pas tout en tête, regarde ça.
Tu auras une réponse avant la fin du conseil.
5 ou 10 minutes, parce que je vois que... mais les services... avant la fin du conseil...
Tu leur as enlevé le sourire, hein, parce qu'il va falloir qu'ils...
Je vous donner la réponse. Là.
Allez, merci en tout cas pour la recherche. On continue. Claude.
Où j'en suis.
Point numéro, fixation de tarifs sur les matières déportées. C'est la suite. Parlons sur ce point. Hormis cette question qui ne concerne pas directement ce point.
On l'a pas voté.
Qui est contre, qui s'abstient? Je vous remercie, on passe au point.
Point maintenant.
Je vois.
Donc, fixation du tarif sur les matières déportées à la station d'épuration de Clermont-Lérault. Donc, à la suite de ces travaux, comme on l'a dit tout à l'heure, les entreprises pourront déposer et permettre le traitement localement de leurs sous-produits d'assainissement. Ce nouvel équipement et son exploitation sera à la charge du délégataire à compter du 1er novembre 2019. Par ailleurs, la communauté de communes qui a porté le financement de cet équipement a la possibilité d'instaurer un tarif visant à couvrir l'amortissement et les annuités de cet investissement. La société délégataire assure la perception de ce tarif pour le compte de la collectivité dans le cadre de la mise en œuvre de la convention de délégation de services publics. En conséquence, c'est conformément à l'avenant numéro 2 avec la société SOR, délégataire, et la convention de dépotage s'y rapportant. Il est proposé au conseil communautaire d'approuver l'instauration d'un tarif de 2 euros par tonne de produits traités. C'est-à-dire que chaque tonne qui va être traitée, on récupère 2 euros.
Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions particulières? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Point suivant, Cazuldero.
Oui, donc c'est la convention d'entente intercommunale pour la création d'un accueil de loisirs intercommunal de Cazuldero. Vous savez qu'il y a eu un regroupement pédagogique entre Cazul et Usclas-Dero. Donc Cazul pour 55% d'enfants et Usclas pour 45%. Voilà, donc cette convention va permettre... tous les ans, elle sera renouvelable par express reconduction à chaque nouvelle année scolaire. Voilà.
Est-ce qu'il y a des questions sur ce projet qui marche bien, hein? Ça fonctionne très très bien.
Non, c'est pas une question, c'est juste ce travail s'est commencé quand j'avais cette vice-présidence, dont je voulais remercier Francis Bardot et les services techniques d'avoir levé tous les obstacles, parce qu'il y en avait de nombreux, pour que ce projet puisse se concrétiser. Merci de la continuité dans les services.
Merci à toi. Donc, qui est contre, qui s'abstient, je vous remercie. Et nous passons à la finance.
Voilà, comme habituellement, il y a plusieurs points de décision modificative ainsi que de régulation essentiellement. Du point 31, 32, j'ai fait un petit résumé pour vous dire, ça concerne, celle qui concerne le budget général. Pour le fonctionnement, c'est, il y a 8000 euros qui sont de charges financières supplémentaires qui sont prises aux dépenses imprévues. Sur le budget général, sur les dépenses d'investissement, ça concerne un véhicule jeunesse et son équipement, ça concerne l'achat par la bibliothèque intercommunale de livres. Sur le bâtiment jeunesse, un décalage dans les travaux, du mobilier, des accessoires pour l'ensemble des services, du matériel d'outillage, de la signalétique à la BART notamment, des remboursements d'emprunt, etc. Ce qui aboutit à un total de dépenses modifiées de 287 500 et un total de recettes, évidemment, puisqu'on prend chaque fois dans les chapitres correspondants qui permettent d'alimenter et de combler les dépenses, un total de recettes de 287 500. Ensuite, ça concerne d'autres, je continue, hein, j'enchaîne et on fait qu'on montrera tout en même temps.
Une question.
Oui.
Oui, vu qu'on va très très vite et qu'on pourrait finir trop tôt, j'ai une petite digression parce qu'il n'y a que ce point-là où je peux le poser. C'est sur la santé, donc c'est sur la santé, c'est important. Il y a deux points qui font un peu l'actualité. C'est d'abord l'équipement qui doit venir au comptoir médical. J'avais vu qu'il y avait une pétition qui était en ligne.
Tu parles du scanner.
Moi j'avais souvenir effectivement qu'à l'époque il y avait l'hôpital de Clermont qui était aussi demandeur et qu'il y avait un arbitrage à faire. Et je voulais savoir effectivement dans l'arbitrage qui est attendu, quels sont les critères sur lesquels on peut appuyer pour que ça vienne à Clermont-l'Hérault et que ça n'échappe pas à la commune. Parce qu'effectivement la pétition elle est intéressante, mais si on peut l'argumenter un peu plus que juste pour signer une pétition pour Clermont-l'Hérault, c'est juste ça. Et puis le second point, toujours pour la oui, c'est par rapport au SMUR. Donc normalement au 1er novembre, donc vendredi, le SMUR succède à l'UMUPS, et je voulais savoir si il y avait bien les véhicules, s'il y avait bien les urgentistes pour pallier aux services qu'on offrait par le passé.
Alors je vous propose de boucler le budget et je réponds tranquillement à ces deux points, mais c'est très bien de l'aborder, comme ça on aura une info collective. Bernard, continue.
Voilà, je continue sur les décisions modificatives concernant l'office de tourisme. C'est une petite somme, enlever du fonctionnement 500 euros et les prendre sur un autre chapitre. Ça concerne, il y a un investissement aussi à prévoir, plus 17 000 euros, ce sont les bornes interactives qu'on installe dans les offices de tourisme. Concernant le centre aquatique, une DM qui est liée à l'achat, au remplacement d'une chaudière pour 9 000 euros, qui a été remboursée par l'assurance à hauteur de 9 000 euros également. Pour le SPANC aussi, c'est une petite somme qui correspond à 232 euros pour une admission en non-valeur. Donc sur l'ensemble de ces décisions modificatives...
Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions particulières... Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie et on continue.
33.
Vas-y.
Chapitre 33, l'admission en valeur de produits irrécouvrables, donc c'est que vous connaissez, hein, dans nos mairies nous le faisons régulièrement, des admissions en non-valeur modiques puisqu'il s'agit du budget général pour un montant de 278,48 euros et admission en non-valeur sur le budget du SPANC pour 348 euros.
Pas de questions particulières, je suppose. Qui est contre? Excusez-moi, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. On continue, on va pouvoir répondre à la question.
Tableau
des effectifs.
Bon, là, très rapidement aussi, c'est habituel, ça correspond à la vie de la communauté et à la réussite de nos agents à des concours ou examens divers ou à des promotions. Donc il s'agit de créer un poste d'attaché territorial à temps complet et un poste d'adjoint technique à mi-temps.
Pas de question particulière. Qui est contre, qui s'abstient? Point numéro suivant, mise à disposition de Monsieur MacDonald dans la communauté de communes du Clermontais.
Monsieur MacDonald ou Antoine, mis à disposition par
personne régulièrement. Écoute. Personne n'écoute.
Ouais. Moi j'ai écouté. On n'est pas au McDo. Monsieur Maldonado, donc par convention, est mis à disposition à la commune de Nevia. Il est simplement question, vu l'augmentation du travail et les prestations qui peuvent lui être demandées, d'augmenter son temps de travail par un avenant, limité à 100 heures maximum.
Un petit point technique là aussi, qui pas de question, qui est contre, qui s'abstient. Je vous remercie. Point numéro 36. Attribution de subvention, Clermont, plein cœur, Olivier Brun.
Donc, en fait, par rapport à la dynamique sur les cœurs de ville et à travers le travail qu'on fait avec les associations, donc on est sollicité pour dynamiser par rapport au programme qu'on l'a fait déjà avec Paulin, puisque Paulin nous avait proposé des manifestations, on avait attribué une subvention, et Clermont Plein Cœur nous avait fait passer un dossier de demande de subvention, et comme on arrive maintenant vers la fin de l'année et qu'il y a les fêtes de Noël qui arrivent, donc on répond favorablement aux demandes de cette association en vous proposant d'attribuer la somme de 15 000 euros.
Est-ce qu'il y a des questions? Laurent Dupont.
Oui, sur Poilon, en fait, la subvention avait été conditionnée à des projets. Il y avait la foire des couleurs, il y avait le marché des producteurs d'été, etc. Là, quel type de projets sont inclus dans cette...
J'ai pas tout le détail, mais il y a toutes les animations qui sont faites dans le cœur de ville, à travers, je l'ai pas tout
le marché de Noël,
le marché de Noël, mais il y a eu aussi la foire aux tailles qui a été organisée il y a pas longtemps. Il y a pas mal de manifestations quand même. Ça se passe sur Clermont, dans le centre, principalement.
Rien d'exceptionnel en 2019, hein, mais globalement c'est les mêmes choses que les années passées. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques? Rien de particulier, qui est contre, qui s'abstient? Je vous remercie. Point suivant, valorisation des propriétés espaces publics.
Oui, c'est moi.
Voilà, oui. Je te cherchais.
je pense que c'est les dernières subventions, donc c'est Cabrières, hein, restauration des vitraux de l'église, pour un montant de 9506 euros, et le montant de la subvention est de 7604,80 €. Et l'isolation sous la toiture de l'ancienne école transformée pour 11 072,85 € et une subvention de 8 858,28 €. Il convient d'en délibérer.
Là, c'est la fin. Hein. Donc, sur la valorisation du patrimoine, qui est contre, qui s'abstient, je vous remercie. Point suivant, PIG, ouais. Daniel.
Oui, donc, le PIG, vous savez ce que c'est. Donc, ce projet consiste notamment à une aide financière des propriétaires occupants ou bailleurs pour la rénovation de leur habitat. Donc, il est rappelé que le montant total des budgets alloués par la communauté de communes Clermontais pour la durée de la convention s'élève à 94 000,003 €. Dont aujourd'hui, le montant de la participation s'élève à un montant de 4 478,65 €. Voilà, donc vous avez la liste des communes qui sont éligibles derrière, dans le tableau derrière.
Et les adresses des bénéficiaires.
Et les barèmes, hein, ouais, 5%, voilà, pour la communauté. Combien d'en délibérer?
S'il n'y a pas de question particulière, qui est contre, qui s'abstient, je vous remercie. Et nous enchaînons sur le développement éco. Olivier.
Donc là, il va s'agir d'une succession. On a quelques retraits des gens qui se sont visités, puis on vous propose de nouveaux acheteurs. Donc pour le point 39, pour la ZAC de la Salamane, c'est la société NPA Holding donc, qui a pris la décision d'abandonner son projet. Donc on vous propose de rapporter la délibération en date du 11 avril 2018. Donc il convient d'en délibérer. Je fais les trois. Et donc, suite à ce désistement, donc on vous propose sur le lot 6 2A1 d'une superficie de 2000 mètres carrés. On vous propose Monsieur Mayol, qui est un artisan maçon et qui souhaite installer aussi son atelier et hangar de stockage. Donc cette parcelle de 2000 mètres carrés à 55 euros hors taxe le mètre carré pour un montant de 110 000 euros hors taxe net vendeur. Et je continue sur le lot 6-2A-2, Monsieur Tabar, qui lui aussi est un artisan maçon et qui veut installer son atelier et hangar de stockage. Donc cette parcelle 6-2A-2 de 2100 mètres carrés, dont je vous propose de l'attribuer à Monsieur Tabar, au prix de 50 euros le mètre carré, pour un prix total de 105 000 euros hors taxe net vendeur. Voilà, donc je vous demande de délibérer sur les trois sujets.
Est-ce qu'il y a des questions sur ces trois premiers points? Pas de questions particulières? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Point suivant, cession de parcelle.
Donc il s'agit de la société As de Carreau qui souhaite acquérir cette parcelle afin de développer son activité de logistique et de commerce. Donc cette parcelle du lot 6-2D d'une superficie de 4881 mètres carrés, je vous propose de l'attribuer à As de Carreau au prix de 55 euros hors taxe le mètre carré pour un montant de 268 455 euros hors taxe net vendeur.
Enchaîne là aussi, s'il y a des questions, n'hésitez pas,
Donc cession de la parcelle 9-2, la société Sochon Industrie a communiqué à la communauté de communes sa décision d'abandonner le projet d'acquisition de la parcelle 9-2, donc, et en contrepartie, on vous propose de l'attribuer à la société Montpellier Dépannage, qui fait part de son souhait d'acquérir cette parcelle de 9803 mètres carrés au prix de 40 euros hors taxe le mètre carré, soit 392 120 euros hors taxe. Donc là, il s'agit de l'activité de transport, remorquage, dépannage, et aussi qui est destinée à la gestion de véhicules saisis par la justice, et une dernière partie à la location de locaux à destination d'entreprises ou artisans.
Bon. Point suivant.
Point suivant, donc toujours pareil, c'est sur la Salamane. Monsieur Luchère a fait part de son souhait d'acquérir la parcelle du lot 7-2, superficie 10 000 mètres carrés, située sur la ZAC de la Salamane, au prix de 55 euros hors taxe le mètre carré, soit un total de 550 000 euros hors taxe net vendeur. Il souhaite implanter des locaux à destination des activités de service ou d'entreprise. Je continue.
Et continue.
Donc pour le lot, c'est le 45, c'est le lot 6-1A, donc c'est les transports Ginoux, qui font part du souhait d'acquérir la parcelle 6-1A au prix de 55 euros hors taxe le mètre carré pour un montant de 98 670 euros hors taxe. Ils souhaitent acquérir cette parcelle pour des activités de parking de bus. Donc je continue. Dans la parcelle lot 4-6, c'est la société Transport Ginoux n'avait pas pu réaliser le projet dans les délais, puisque vous savez qu'il y avait eu des recours à un moment et qu'il y avait deux entreprises qui avaient été déstabilisées. Donc il en faisait partie. Et en fait, après avoir perdu pas mal de temps, on s'est remis autour d'une table. Et aujourd'hui, on vous propose on propose donc Ginoux sur cette parcelle, le lot 4-6, d'environ 4553 mètres carrés au prix de 45 euros hors taxe, pour un montant total de 204 885 euros hors taxe. Donc je continue.
Oui.
Développement, donc pareil, lot 9-1. Donc la société La Dourbie a communiqué à la communauté de communes sa décision d'abandonner son projet d'acquisition, donc qui nous permet aussi de revendre cette parcelle. Donc ceux qui se sont retirés, c'est ou des problèmes de santé ou des problèmes de banque, c'est-à-dire des fois aussi les banques qui n'ont pas suivi. Donc on vous propose de l'attribuer à la société SCI Imeo Géo, le lot 9-1 qui fait d'une superficie de 9000 m² au prix de 35 euros hors taxe, soit un montant total de 333 000 euros hors taxe net vendeur.
Et on continue.
Et là il s'agit de la parcelle 15-3. La société Clos des Coustoulins a communiqué à la commune sa décision d'abandonner son projet. Et aujourd'hui, on vous propose donc d'attribuer cette parcelle lot 15-3 d'une superficie de 1125 m² au prix de 63 euros hors taxe, soit un prix total de 70 875 €. Cette parcelle est en limitrophe à la parcelle 15-1 en cours d'acquisition par la dite société. Voilà, donc c'est réparation et carrosserie. Donc voilà, je vous demande de leur attribuer cette parcelle.
Bien.
À la société Turco Automobile. Et après, on change de rubrique.
Donc, est-ce qu'il y a des questions?
Ah, tu devais t'y attendre, puisque, je sais pas, mais il y a une faveur qui est faite à une personne pour payer 45 € du mètre carré au lieu de 55 et 63. Donc il y a quand même une différence de prix chaque fois qu'on
prend
les parcelles. Donc 45, 50, 55 et 63.
Alors,
et 37 aussi. Donc voilà, une
je vais vous expliquer.
Je pense que tu devais t'y attendre.
Non.
Il doit y avoir une explication, je pense.
Ben oui, évidemment. Vous rappelez, depuis le début, la Salamane, elle est découpée en tarifs, elle est découpée physiquement, c'est-à-dire ce qui est au bord de l'autoroute est plus cher, ce qui est plus loin de l'autoroute est moins cher, etc., etc. Et quand on part en reculant jusqu'au dernier recoin au fond, c'est pas cher. Et là-dessus s'ajoute un autre paramètre, c'est la surface des terrains. C'est-à-dire quelqu'un qui achète 3000 m² de terrain sur une zone, si tu veux, sur un secteur à 50 €, il va le payer 52, et celui qui achète 2 hectares sur cette même zone le paiera 48. Donc il y a deux paramètres qui amènent une fluctuation de tarifs.
Oui, et est-ce qu'il y a à chaque fois des négociations de par les acheteurs ou ils sont...
Oui.
Ils se mettent au prix et puis voilà.
Non.
Chaque fois, il y a des négociations à chaque fois.
Alors, il y a chaque fois négociation. Chaque fois, je crois que ça doit être 100%. Je pense pas trop me tromper, mais ça doit être 100%. Ou 98. Négociation à l'extrême marge. C'est-à-dire que on est en petit euro du mètre carré. C'est vraiment, vraiment très étroit. Il n'y a pas d'écart très important. Quel que soit l'acquéreur qui achète une ou deux parcelles, puisqu'il y en a qui en ont acheté plusieurs, mais il y a vraiment, la négociation fait partie du jeu, du système, j'achète, vous vendez. Donc il y a toujours eu des petits débats, mais sans, rappelez-vous, l'objectif c'est d'arriver à l'équilibre de cette zone. Nous y sommes, puisque il reste 3000 m² de terrain hier. Il est resté 3000 m². Donc, si il y a déjà intéressé dans votre entourage, dites-le parce que ben, il n'y en aura plus. Donc la négociation est toujours avec un arrière-plan, ne pas trop descendre. Vous vous rendez compte aussi que, à notre avantage, dans la négociation, nous avons quand même l'argument de dire si ça ne vous intéresse pas, nous avons une file d'attente, il y a de la demande. Donc ça réduit aussi la négociation de la part des acquéreurs.
Et dernière question, est-ce qu'il y a dans les contrats entre la Comcom et l'acheteur, est-ce qu'il y a une obligation de réaliser le projet et dans des délais?
Et un délai.
Je dis ça parce que je parlais avec Claude tout à l'heure sur la zone de Paulhan,
oui.
Où il y a des personnes qui ont spéculé sur des parcelles et qui les vendent bien sûr, 25% de plus que le reste, hein. 5, me dit-on, voilà. Ouais. Donc, à un moment donné,
délai obligatoire.
Il ne faudrait pas que, voilà, qu'il y ait pareil non. Sur la Salamane.
Un délai obligatoire. C'était la même. Bon, arrêtez de vous concerter avant les conseils communautaires, bon Dieu.
Et par rapport à l'environnement, est-ce
oui.
qu'il y a des règles à respecter au niveau de l'installation de ces entreprises? Puisque maintenant, on parle quand même beaucoup aussi écologie,
pas
on
beaucoup.
Parle beaucoup d'environnement. Mmh. On parle. Donc, est-ce qu'il y a un cahier des charges à respecter?
Le cahier des charges à respecter, alors, il n'y a pas un cahier, par rapport à ta question, il n'y a pas un cahier des charges communautaire par rapport à l'environnement, évidemment. Qui serait plus restrictif que la loi ou les lois qui concernent cette problématique. Donc, selon la nature de l'entreprise, il y a un cahier des charges à respecter. Sachant que dans l'immense majorité de ce que nous avons passé ces deux dernières années, il n'y a pas d'entreprise hypersensible sur le plan de l'environnement, de la pollution,
oui,
des
voilà.
risques. Bon, quand on
des
parle,
déchets aussi.
Il n'y a pas de déchets là non plus. De dépôt de déchets, il n'y a pas. Non, il n'y a rien d'extraordinaire là-dessus. Donc pas de risque particulier, donc pas de cahier des charges spécifique. Il y a eu un cahier des charges spécifique pour Système U.
Oui.
Hein, puisqu'on est un CDSO faible, etc. Mais le reste est quand même très classique.
D'accord.
Oui, il peut y avoir du photovoltaïque sur certaines toits, ça c'est pris en compte.
C'est recommandé.
Après, comme l'a dit Jean-Claude, sur les prix, on avait fixé des grilles de prix en fonction des secteurs, on s'est pratiquement tenu. Et comme vous le voyez, quand il y en a un qui n'a pas un accord de prêt, on trouve facilement quelqu'un d'autre qui arrive derrière. Donc ça, c'est le risque aussi d'avoir des entreprises qui ont un projet qui capitule parce que la banque ne le suit pas. Ouais.
Pas d'autres questions? Donc c'est vraiment la fin. Là. Donc sur l'ensemble de ces points, qui est contre, qui s'abstient, je vous remercie et nous continuons avec le développement éco.
Donc,
aide à l'immobilier.
Donc on va passer d'abord les aides à l'immobilier. Donc c'est des entreprises qui dans leur investissement nous sollicitent pour avoir une aide. Donc ils nous présentent des dossiers et selon des critères qui peuvent aller sur le siège social, l'aspect de l'entreprise, les emplois. Donc après on attribue une note et après ça détermine un montant de subvention qu'on peut attribuer à ces entreprises. Sachant qu'on est en partenariat sur ce type d'action avec la région, c'est à proportion de 1 pour 4. C'est-à-dire, nous, si on met 1, la région met 4. Ça fait à peu près cette équivalence. Donc, pour la société Flash Enseigne, la note attribuée a été de 7,3 sur 10. Et le montant qui vous est proposé aujourd'hui pour la communauté de communes est 9 437,50 €. Ouais, j'enchaîne, Jean-Claude ?
Oui, vas-y. Donc, c'est même nature.
Ouais, le deuxième, c'est une aide à l'immobilier à la société TG Décoration. Donc là, exactement pareil, sur les critères que je vous ai dit, donc on a proposé une note de 6,9 sur 10, donc ce qui fait que le montant qui vous est proposé aujourd'hui est de 7 703,50 €, sachant qu'aussi la région aussi est partenaire avec nous, à propos de la même proportion que je vous ai dit. Et après, On va changer.
Donc, sur ces deux points d'aide à l'immobilier, est-ce qu'il y a des questions, des remarques, des interrogations? Eh bien alors, on passe au vote. Qui est contre, qui s'abstient pour cette aide aux entreprises? Je vous remercie. Attribution d'aide à la location.
Donc on passe à l'aide à la location, comme on l'avait au début, c'était quelque chose qu'on a mis en expérience. On voit que ça marche puisqu'on a quand même eu des demandes. Donc là, il s'agit de l'implantation d'un commerce dans le centre-ville de Clermont. Donc il s'agit de Dominique Jeannère, qui présente un projet de cordonnerie au centre-ville de Clermont-Lérault. Cordonnerie, excusez-moi.
C'est mieux que la cordonnerie, hein. C'est la cordonnerie, c'est-à-dire que c'est quand même plus important.
C'est la fatigue, ça. La fatigue. Donc en fait, comme vous le savez, c'est un partenariat entre les communes et la communauté de communes. Donc par rapport au loyer qui s'est levé à 7 200 € hors taxe, donc la communauté de communes participera pour un montant le montant maximum c'est 1 200 € sur 2 ans, ça fera 2 400 €. Et après, la commune intervient aussi à un prorata qui est moins élevé, mais pour la commune, ça fait 720 €. Donc le montant de l'aide de la location sur les 2 ans est de 2 400 €. Montant de l'intervention de la commune, 720 €. Et la communauté de communes, 1 680 €. Donc ça fait 30% et 70%. C'est dur d'enchaîner comme ça.
Continue. C'est la même, alors. Ça allait continuer. Il n'y a pas de cordonnier, là.
Alors, on continue. Là, il s'agit dans le centre-ville de Canet. Là, il y a longtemps qu'on n'avait pas parlé de Canet. On y revient. Donc, Madame Charlotte Lallemand a présenté son projet de boulangerie-pâtisserie située dans le centre-ville de Canet. Cette activité sera exercée sous le régime d'une SARL. Donc, en fait, on est sur la même... Le montant total s'élève à 9 600 € hors taxe. Donc le montant proposé de l'aide sur la location sur 2 ans est de 2 400 €.
Donc 720 euros pour la commune, donc qui représente 30%, et 1680 euros pour l'intercommunalité, 70%.
Donc là, pareil, c'est une opération particulière, mais qui décolle, ça a l'air de prendre. Hein, je rappelle que les communes doivent obligatoirement participer pour que déclencher la communauté de communes. Des questions, pas de questions particulières, donc ben, sur ces deux points d'aide à la location, qui est contre, qui s'abstient. Je vous remercie. Point suivant, Daniel, Saint-Félix de l'Odès, on change de commune.
Ah, donc l'Andréal entreprend la création sur la commune de Saint-Félix d'un site de détente sur la 750, équipé d'un parking permettant l'accès à un parcours découverte rendant accessible le pont de maquette de 1/10, c'est le pont de Gignac. Ah, donc l'Andréal propose à la communauté de communes de participer à cette opération à travers la prise en charge de la gestion courante, l'entretien et le renouvellement des équipements et l'aménagement de cette aire de détente. Donc il n'y a pas de chiffres, il convient d'en délibérer.
Je passe passe à l'autre, puisque c'est même endroit, ouais, même lieu, même voilà, cause.
Donc, là, c'est une convention, mais c'est par rapport donc un parking, donc équipé d'un parking permettant l'accès à un parcours de découverte. Hein, donc, excusez-moi, ouais, on va aller vite, hein, bon, alors. C'est la création de 48 places de stationnement, donc un accessible aux personnes à mobilité réduite, et donc le traitement des continuités piétonnes accessibles aux personnes à mobilité réduite, une mise en valeur du site par un parcours découverte. Voilà, donc c'est une convention avec le département.
Non, il s'agit tout simplement de la création d'une aire de covoiturage sur la commune de Saint-Félix, et l'État, le département le finance et nous demande par convention d'en assurer l'entretien, tout simplement. Monsieur le maire. Joseph.
Oui, je voulais simplement soulever un point que j'avais abordé lorsqu'on avait eu la réunion avec l'Adréal et les services de l'État avec, il y avait Yves et Jean-Louis Rio. C'était une réunion qui s'était tenue sur Clermont. Pour souligner que sur le pont, au niveau du pont, il y a des roseaux. Et ces roseaux, effectivement, aujourd'hui, une fois que les travaux ont été terminés, on voit déjà que les roseaux, ils font 2 mètres de haut. Donc il y a un réel souci. Bon, j'avais abordé ce point. Bon, après, il y a des mots qu'il faut pas prononcer, hein, round-up. Hein. Mais je pense qu'il serait peut-être utile de se poser la question de savoir de faire un traitement une fois pour toutes, plutôt que de les improlonger, sinon c'est pas la peine de le prendre.
Hein. D'accord.
Ouais. Parce que là, sitôt que vous aurez le dos tourné, les roseaux...
Ah ben oui, c'est les roseaux. Ouais.
Tout à fait d'accord.
Voilà. Donc, merci.
Pensez-y.
Merci. Sur ce point-là, qui... Non, le nom du produit, je le connais même pas. Je sais pas ce que c'est. Qui est contre, qui s'abstient, je vous remercie. Point suivant, demande de subvention, projet d'irrigation de Lieusson, secteur de Lieusson.
Donc on vient sur l'agricole. Donc comme vous le savez, aujourd'hui, par rapport aux aléas climatiques et aux changements de climat, on a un problème d'irrigation dans certains secteurs pour les vignes. Et donc on a des projets qui sont en train de mûrir un petit peu partout, et le département s'y implique. Donc là, on avait reçu, il s'agit d'une association qui est située sur la commune de Lieusson. Il y a 13 viticulteurs. Donc il y a 16 emplois sur l'ensemble de ces exploitations. Et actuellement, il y a un dossier de présentation d'irrigation pour 96 hectares. Et en fait, ils nous sollicitent pour participer à l'étude par rapport à la faisabilité de ce projet. Donc comme vous le voyez dans le tableau, il y a un autofinancement et puis des demandes d'aide à la région, au département, à la communauté de communes et à la commune de Lieusson. Bon, je pense que par rapport aux enjeux agricoles, et parce que même qu'il pleuve beaucoup en automne, ça enlève pas les problèmes qu'on peut avoir pendant la période d'été et de printemps, puisque les vignes, si jamais on n'a pas de pluie à ce moment-là, il y en a certaines qui ont des problèmes pour arriver à mener le raisin à maturité. Donc je pense que, vu par rapport au développement économique, participer à ces démarches vis-à-vis du monde agricole, ça me paraît tout à fait cohérent. Et donc, je vous demande, donc par rapport à cette intervention, pour la communauté de communes de Clermontais, la participation serait de 8 500 euros.
Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, il y a des questions. Marie. Pardon. Non, c'est pas une question, c'était pour un petit peu discuter sur ce point-là. Certaines communes et certains viticulteurs qui sont autour du lac avaient des habitudes. Il y en avait même certains, et nous les connaissions, qui allaient pomper directement dans le lac pour leur irrigation au niveau de l'agriculture. Et donc, il était important que ces agriculteurs-là puissent avoir une réelle, de l'irrigation qui soit réellement dans les normes de tout ça. Donc, nous avons travaillé de manière à ce que ces agriculteurs puissent bénéficier de ce projet d'irrigation. Et c'était un peu compliqué parce que on a une autre ASA qui est à Octon, qui est sur le domaine d'Octon, qui a elle aussi de bons résultats au niveau de d'irrigation de ses membres. Et sur Liosson, on ne pensait pas qu'il y aurait autant d'agriculteurs en fait qui se seraient mis dans cette association. Donc il y en a 18, je crois. C'est 16. Voilà, c'est quand même, c'est beaucoup, je trouve, hein, sur Liosson. Donc c'est un projet qui est important, qui est pas énorme au niveau du coût, mais qui va effectivement permettre à nos agriculteurs de pouvoir résister d'abord dans les normes, ce qui est déjà pas mal au niveau des réglementaires, et ensuite pour leur agriculture, quoi. Donc c'est un beau projet et je suis contente que ça arrive aujourd'hui au niveau de la communauté de communes.
Voilà, c'est un projet qui est évalué aujourd'hui à peu près 1 million d'euros pour réaliser tout ça, mais les viticulteurs participent grandement d'abord à l'investissement et ensuite au fonctionnement, entre guillemets, hein, du système. C'est du privé en particulier et c'est bien que nous ayons cette démarche de soutien.
Oui, juste j'aimerais avoir une clarification. Est-ce que tous les viticulteurs du Salagou pourraient y avoir, accès à l'eau, tout simplement? Pourquoi ça serait que Liosson?
Parce que ce sont les seuls qui en font la demande.
Voilà, donc à ce moment-là, il suffit que tous les viticulteurs montent une ASA pour y avoir droit, parce que je pense quand même que tous les viticulteurs du lac Salagou aimeraient avoir l'eau, comme le disait tout à l'heure, Olivier. Donc, il faudrait contacter tous les viticulteurs pour faire une ASA qui concerne tout le Salagou, et comme ça, tous les viticulteurs pourraient en profiter, parce que je pense que le soleil est le même du côté de l'Aillé que du côté de Liosson. Voilà, c'est tout.
Merci.
Non, je voudrais juste rajouter qu'il y a quand même le Baronne qui existe et qui dessert beaucoup de terres viticoles. Non, non, mais je le sais, je suis au courant parce que il y a des secteurs comme Liosson qui n'étaient pas desservis par le Baronne et qui souffraient en temps de sécheresse. Il y a d'autres secteurs, hein, comme le Mazaudran, etc., tous ces secteurs-là. Mais il y a d'autres parcelles après qui ont le Baronne, heureusement, et qui l'utilisent largement. Hein. Ah si, je peux te donner des noms, hein, puisque j'en connais, à Salel, ils ont le Baronne, et puis, oui, mais ils arrosent, et puis ils sont à côté du Salagou. Hein. Voilà, mais après, au bord du Salagou, il y a des grosses zones où c'est pas cultivé. Hein.
Moi, juste une petite précision, monsieur le maire. Nous avons travaillé avec tous les agriculteurs, autour du Salagou en tout cas, qui souhaitaient recevoir de l'eau. Donc nous avons travaillé avec tout le monde, et cette nouvelle ASA, justement, c'est celle qui manquait autour du lac du Salagou. Donc nous avons répondu entièrement à la demande des agriculteurs autour du lac du Salagou. Exactement.
Merci. Pas d'autres? Oui, Claude.
Juste une petite remarque sur le montage financier, pour dire que je trouve que la mairie se fout le pas, quoi. Voilà, avec on demande 8 500 euros à la communauté de communes de subvention et la commune donne 1 000 euros. Donc je trouve ça, on aurait pu partager la part en deux, voilà, c'est tout, quoi.
Voilà. Ok, merci. Oui.
À l'origine, le lac du Salagou avait été mis en œuvre pour justement répondre à cette demande. Est-ce que, on demande des viticulteurs pour l'irrigation, est-ce que maintenant on a dévoyé un peu le projet initial, puisqu'on a fait zone touristique du lac du Salagou, est-ce qu'il n'est pas du tout envisageable que les viticulteurs puissent quand même puiser dans le lac?
Mais c'est large. Enfin, Madame la conseillère départementale va sûrement compléter mon propos, Marie, mais le lac a été fait pour ça, il sert à ça, et son utilité va se développer de plus en plus, puisque quand on parle de Lieusson, il y a Auton, il y a Lieusson, mais on a un gros projet, je pense, en regardant Joseph, Saint-Félix, Jonquière, tout ça, Seyras, avec de l'eau du lac. Le Salagou est en pleine évolution, l'activité touristique et de loisirs est beaucoup plus... Elle ne m'écoute pas, je parle pour rien dire, non, mais si tu ne m'écoutes pas, tu n'es pas gentil. L'activité touristique existe, mais l'eau est quand même un élément essentiel, et pris en compte par le département qui en est propriétaire et gestionnaire, et qui le fait très bien.
Non, j'écoutais, je m'excuse, mais on me donnait une précision très intéressante en disant que il y avait certaines zones que le lac du Salagou ne pouvait pas irriguer et que c'était pour ça qu'il y avait une recherche complémentaire à nous. Parce que, en fait, c'est ça le problème. Cette étude, c'est pour voir une autre ressource.
Non.
Non?
Non. C'est l'étude, c'est tout simplement pour voir sur le plan réglementaire plus fin, sur le plan technique, sur le plan pratique et physique, comment doit se poser l'installation, l'équipement pour desservir X mètres cubes à chaque propriétaire exploitant, de façon à pouvoir lancer un projet de réalisation cette fois, hein, c'est-à-dire lancer le projet qui, je vous disais, est à peu près estimé à ce jour à 1 million d'euros travaux. Hein, mais et juridiquement, il faut que ce soit une NASA, oui. Marie.
Oui, juste pour te préciser un petit peu, Yolande, par rapport à ton questionnement un peu plus général, le lac du Salagou, effectivement, tout le monde le sait, a été construit pas uniquement pour l'irrigation, mais ça a été une de ses fonctions prioritaires, et c'était notamment dans l'esprit de l'État à l'époque et puis des élus à l'époque, notamment pour l'aval, c'est-à-dire de permettre à ce qu'il y ait une agriculture qui se développe en aval du Salagou. Maintenant, nous avons fait en sorte, et encore aujourd'hui, que nos agriculteurs autour du lac du Salagou soient satisfaits et puissent eux aussi bénéficier de cette eau. Mais il y a autre chose, tu l'as dit aussi, il y a d'autres activités qui s'y déroulent et le département a lancé une étude de manière à pouvoir rehausser le lac de 50 cm et de pouvoir faire en sorte que la lergue puisse elle aussi venir enrichir le volume d'eau sur le lac. Donc on est dans une réflexion de manière à ce qu'on puisse, à l'avenir, traiter et répondre aux besoins agricoles qui nous seraient demandés.
Merci.
Oui, là il y en a deux, on attend avant la fin de l'année, nous aurons les résultats de ces études et puis on vous tiendra au courant.
Merci. Simplement sur ce point-là, pardon.
Préciser simplement qu'il y a aussi d'autres études menées sur des communes qui sont hors du Salagou et qui ont des besoins aussi. Et il y a eu des réunions faites avec le département et il y a des projets qui vont sortir aussi, puisqu'on a des territoires qui n'ont pas de grosses solutions, si ce n'est de faire des retenues par secteur défini et recherché. Donc en fait, c'est des sujets qui vont revenir de temps en temps.
Merci. Sur ce point, donc, si on a épuisé le sujet, qui est contre, qui s'abstient, je vous remercie pour eux. Point suivant, rapport d'activité, là, je pense qu'on va pas y passer beaucoup de temps, hein, collecte, mais vous l'avez tous lu. Daniel.
Oui, donc, c'est le rapport succinct qui a été présenté, oui, merci. Donc, c'est le rapport succinct qui a été présenté en commission des moyens généraux le mercredi 2 octobre.
donc à 18h. Bon, alors, en préambule, bon, les objectifs, l'amélioration de la qualité du tri, l'augmentation des quantités des déchets recyclés, la diminution des quantités de déchets enfouis, la diminution de la production des déchets et optimiser les tournées de collecte. Ça, c'est les objectifs. Donc, ensuite, le territoire collecté, bon, ça vous le savez, donc, c'est 20, il y a 26 000 habitants qui sont collectés, donc 20 communes plus Fontaine, qui est collecté par le SICTOM de Pézenas. Voilà. Le service collecte, donc, 31 tournées hebdomadaires, 5 jours semaine, du lundi au vendredi. Cet équipage donne 17 agents permanents au quotidien, 10 véhicules de collecte. Alors, les déchets résiduels, 5556 tonnes, donc 5434 tonnes en 2017, donc plus 122 tonnes. Voilà, donc le biodéchet, 972 tonnes, 1007 tonnes en 2017, moins 35 tonnes. Donc vous voyez où vont les équilibres. Donc le Salagou, donc collecte estivale, donc il y a 4 campings, le pourtour du lac, 2 aires d'autoroute, le parking de Villeneuvette. Voilà, donc 3 collectes semaines de mai à septembre, 2 agents saisonniers en haute saison juillet et août, un BOM poids lourd et 50 tonnes collectées, 72 tonnes en 2017, donc moins 22 tonnes. Voilà, donc après, l'équipement de collecte, donc ça c'est les 15 514 biosseaux, 12 283 bacs et modulos verts, 14 589 bacs et modulos gris, et 1590 composteurs. Donc, j'y suis allé vite, hein, donc... Alors après, donc, la prévention et sensibilisation, donc, en partenariat avec le syndicat Centrero, donc, vous avez sûrement reçu dans toutes les communes, dans les boîtes aux lettres, aussi le nouveau magazine qui a été édité en octobre, donc, c'est Esprit Zéro Déchet, distribué dans les boîtes aux lettres, et dans les mairies à disposition, voilà. Donc, c'est un stand d'information sur le marché de Clermont-Lérault, le tri dans les manifestations aussi, donc, Festival de Mouraise, de Villeneuvette, Foire aux Couleurs, j'en passe, le cross départemental, Fête de la Nature, Triathlon du Salagou, Salagou Mania. Donc le tri en vacances aussi, donc là c'est pour les campings, donc voilà, donc camping, hôtel, location saisonnière et donc prestataires touristiques du pourtour du Salagou qui ont participé. Et un collectif aussi, donc en lien avec les gestionnaires et les syndics de copropriété, de l'information par fascicule et affichage dans les locaux communs est mise en place pour sensibiliser régulièrement les résidents. Voilà, donc, la dernière page, c'est le bilan financier. Alors, vous l'avez lu sûrement. Voilà, donc, le montant attribué donc au syndicat Centrero est de 2,188,867 euros. Donc, en fonctionnement, donc, on est à 3,987,547 euros. Donc, et en recette, idem, voilà, donc 4 610 886,74 €. Au niveau de l'investissement, 442 908,05 €. Et donc, au niveau des recettes, 242 985,18 €. Donc, si vous avez des questions, merci. Donc, le résultat de l'exercice 2018, 423 386,72 €.
Merci Daniel. Est-ce qu'il y a des remarques, des commentaires, des questions?
C'est surtout, je pense, à la fréquentation. Hein. Là, je pense. Hein, voilà.
Je pense qu'il y a moins. C'est plus surveillé. C'est plus surveillé, donc la fréquentation, entre guillemets, la fréquentation de mauvaise qualité, ceux qui passaient les nuits, qui traînaient, etc., etc., ils sont de moins en moins, donc grâce à tout ce qui est mis en place au niveau police, ça doit contribuer.
Ce que je voulais demander, c'est est-ce qu'il y a eu aussi des efforts, par exemple au niveau des manifestations, qui se sont ressentis au niveau du tonnage récolté? Est-ce que ce qu'on a mis en place, c'est-à-dire on s'est aperçu que plus on met de bacs et plus il y a des déchets, moins il y a de bacs et moins il y a de déchets, ça va avec. Parce que les gens repartent aussi avec leurs déchets au Salagou, je parlais. Ça, c'est encore autre chose. Donc j'étais intéressée parce que 20 tonnes, ça représente quand même, c'est énorme. Et en plus, vous aviez davantage de... Vous êtes passé davantage cet été au niveau du nombre de passages. Oui, mais c'était le même nombre l'année dernière ?
Oui.
C'était déjà pareil, on oui. était déjà sur cette...
Il y a un peu plus de rigueur sur les manifestations.
Oui.
Mais
donc ça vaut le coup de...
Le classique est le même. Le classique est le même.
Oui. Ça vaut le coup de continuer à discuter avec les associations par rapport à leurs déchets. Et...
Complètement. Complètement.
Et puis d'avoir une réflexion là-dessus, parce que c'est vrai que les berges sont relativement propres. Et donc, voilà, il faut se faire en sorte de prendre les bonnes choses là où elles sont. Hein.
Oui. Donc, et là, d'améliorer. Là, on parle bien du rapport 2018. Donc 2019, on n'a pas encore les chiffres. Voilà, on est bien d'accord.
Laurent, je crois.
Oui, plusieurs points sur ce rapport. Déjà, remercier qu'il y ait ce rapport, parce que je crois que c'est la première fois qu'on a ce rapport en conseil communautaire. Et en tout cas, donc sur le résultat financier, donc on a toujours, là je vois effectivement presque un demi-million de résultats d'exploitation, et c'est un résultat qu'on a assez couramment positif.
Oui, oui.
Ça posera effectivement un jour la question si on fusionne demain les intercommunalités de l'alignement de l'atome. Je pense qu'il faut l'anticiper avant que ça nous tombe sur le nez et que ça ait un impact sur les administrés ou en tout cas ceux qui payent la taxe foncière. Ensuite, j'avais deux questions, c'est par rapport aux emballages. Puisque c'est un sujet qui préoccupe beaucoup le syndicat Centrero. Il y a d'abord l'usine qui va être construite à Mont-Blanc avec la société publique locale Comed à laquelle le syndicat Centrero va adhérer. Et il y a en fait l'ensemble des documents qui sont liés à l'adhésion du syndicat Centrero à cette SPL qui ont été transmis à chacun des trois EPCI. Alors je sais pas si sur ces documents il y a quelque chose qui est-ce qu'il y a des remarques particulières sur les statuts de cette SPL et sur la participation du syndicat Centrero à cette SPL?
On est en train d'y travailler au niveau de Comcom, on en reparlera ensemble.
D'accord.
On en reparlera ensemble.
Donc toujours sur les emballages, la seconde question c'était par rapport à l'extension des consignes de tri, puisque l'an prochain, on met en place l'extension des consignes de tri, donc c'est pour les emballages, qui vont aujourd'hui dans les colonnes jaunes. Il y aura obligation de trier tous les emballages. À partir du mois de mars, ils vont partir non plus à Pézenas comme aujourd'hui, mais à Montpellier, à la nouvelle usine d'Emeter qui est en construction. Et dans 2-3 ans, ils partiront à Mont-Blanc, à l'usine de la SPL Comed. Par contre, ça a un impact financier important sur le fonctionnement du syndicat Centrero. Et on sait déjà qu'il y aura une augmentation importante des participations, ou en tout cas un transfert de moyens. Sur les colonnes jaunes, et il est déjà prévu qu'il y en ait une centaine de plus sur le territoire du pays Cordero. Hein. Une centaine de colonnes jaunes en plus pour recevoir tous les déchets, les pots de yaourt, les blisters de jambon, etc. Enfin, tous ces emballages-là seront collectés, triés. Et donc, effectivement, il y aura des colonnes en plus à ajouter, mais il y aura aussi des tournées de bacs gris en moins, puisque les volumes de bacs gris, c'est 30% qui ont été estimés pour la salle de Cordero, 30%. 30% de bacs gris en moins, ce qui veut dire peut-être des tournées tous les 15 jours et non pas toutes les semaines, mais aussi peut-être des moyens à revoir avec le syndicat Centrero. En tout cas, voilà, c'est un travail qu'on doit faire sur la suite. Et une petite dernière question par rapport à ça, c'était par rapport à la commune de Fontès. On avait dit qu'ils allaient passer dans le giron de l'EPCI pour la collecte et du syndicat Centrero pour le traitement. Donc, par exemple, pour les colonnes en apport volontaire, est-ce que ce sera mis en place à partir du 1er janvier?
Non, 1er janvier non, puisque l'autre côté, donc, qui est concerné que par Fontès, est en train de revoir son système de collecte, qui va devenir la photocopie d'une autre. Donc, c'est le jour où eux vont basculer, où on va basculer en même temps. C'est-à-dire, on va les récupérer quelques mois, mais pas 1er janvier, c'est sûr. Donc, c'était pas trop des questions, hein, c'était des commentaires. Oui, oui. Donc, je n'ai pas trop d'éléments en plus que toi, puisqu'on assiste aux mêmes choses.
Oui, juste une petite remarque. Je veux bien qu'on installe des colonnes d'apport volontaire, mais on les met où? Parce que quand on a déjà 5 ou 6 colonnes empilées, les gens ne les veulent plus à côté de leur maison. Donc on les met aux extérieurs du village, ils n'y vont pas. Ou alors on y retrouve des tas de n'importe quoi autour de ces colonnes. Alors je fais que dire au syndicat Santero, j'ai l'impression que, j'ai pas la science infuse, mais je constate que quand on va dans d'autres interco ou dans d'autres endroits où ils se collectent, on a un bac jaune à la maison. Et quand on fait les proportions, parce que je me suis un peu renseigné, parce que j'avais l'impression d'être un imbécile quand je leur disais ça. Quand on fait les proportions de ce qui est amené en apport volontaire par rapport à ce qui est collecté, c'est le double. Mais nous, on s'entête encore à vouloir faire de l'apport volontaire. Je préfère qu'on paye une tournée supplémentaire et collecter que d'aller faire de l'apport volontaire où personne n'y va, ou alors ça devient un dépotoir fini et on ne sait plus où mettre les colonnes. Moi, sur Canet, il faut que j'installe 7 lots de colonnes, d'après le syndicat Centrero, mais j'ai pas d'endroit pour installer 7 lots de colonnes. Voilà. Et pour faire 7 lots, 7 endroits où il y aura des déchets à ramasser en permanence. Alors que si on collectait au porte-à-porte le jaune, comme à Fontes, c'est basique, ça existe à Fontes, on voit que ça marche. Et nous, on s'entête, voilà. Je suis désolé, mais à un moment, le syndicat Centrero, peut-être qu'il faudra changer la façon de voir la collecte.
Merci.
Oui, Laurent.
Non, juste pour compléter, c'est que il se pose la question des cœurs de ville, tu le connais à Canet, c'est le fait que les habitants dans les zones très très denses n'ont pas la capacité d'avoir chez eux un bac jaune, un bac gris, un bac vert, et un bac à vert et un bac, etc. Enfin bon. Et donc les colonnes d'apport volontaire, c'est effectivement l'évitement d'avoir chez soi beaucoup de containers ou de sacs pour collecter les emballages ou le verre ou les biodéchets. Et moi je tiens à souligner par exemple l'expérimentation qu'il y a sur la vallée de l'Hérault. La vallée de l'Hérault expérimente l'apport volontaire des biodéchets dans des containers spécialisés avec un badge. Donc il y a 7 communes de la vallée de l'Hérault qui expérimentent ce dispositif. Ça marche très très bien, c'est ce que nous a dit la maire de Pouzol au dernier conseil syndical du Centre Hérault. Les gens viennent demander le badge pour pouvoir apporter leurs biodéchets dans des containers avec un accès qui est sécurisé et donc qui facilite la collecte. Alors c'est vrai que je suis allé visiter par exemple, je crois que c'était à Popian, le bac vert qui est au pied d'une église. Bon, c'est vrai que parfois il y a des questions patrimoniales qui se posent pour valoriser le mobilier urbain, pour accueillir tout ça. C'est vrai que ça pose aussi ces questions. Où est-ce qu'on met les bacs gris, vert, jaune, etc. dans les centres-villes qui ont un patrimoine à valoriser. Voilà. C'est une réflexion à avoir que ce n'est qu'un 500 euros, je suis d'accord avec toi.
Il y a encore beaucoup de travail là-dessus. Donc sur ce point-là, qui est contre, qui s'abstient, je vous remercie, mais on passe surtout théâtre Le Sillon. Claude.
Bien donc, concernant le point 57, 58, 59, c'est la demande de subvention soit auprès de l'État, de la région ou du département pour permettre au Théâtre du Sillon de matérialiser ses projets, soit pour la scène conventionnée, soit pour les actions d'éducation artistique et culturelle ou pour collège en tournée. Donc vous avez les sommes, mais il y a 2 sommes qui sont modifiées. Donc au point 57, la demande au département de l'Hérault n'est plus de 60 000 euros, mais de 68 000. Et au point 58, la demande auprès de la DRAC n'est plus de 30 000, mais de 38 300 euros. Ceci pour équilibrer les budgets de ces deux actions.
Des questions, commentaires, qui est contre, qui s'abstient, je vous remercie pour ces demandes de subvention. Et dernier point. Excusez-moi, je suis en train de me rendormir, tout simplement.
Tu ne suis, pas.
Bien. Quelques points, donc. On a parlé de SMUR, on a parlé de scanner, moi je vais vous parler de Scott un peu. Donc, SMUR, je vais vite, puisque pas de réponse à la minute, hein, aujourd'hui, je sais pas vous dire, ce sera le 1er, le 2, le 3, le 4, mais en tout cas, c'est parti, hein. Les urgences vont être gérées, pilotées à partir de l'hôpital de Clermont-l'Hérault. Physiquement, il ne se passera pas grand-chose, mais le CHU a mis en place une ligne, ça s'appelle comme ça, de mur sur Clermont-l'Hérault. Au niveau du scanner, nous en sommes aujourd'hui dans l'attente, puisqu'il n'y a rien qui a évolué de manière magique. Sur notre territoire, il y a 3 demandes.
Il y a une demande de Gignac, une demande de l'hôpital public de Clermont-l'Hérault et une demande privée du comptoir médical de Clermont-l'Hérault. Il y avait une attribution possible pour le département, pour l'Ouest, Hérolté. L'ARS a attribué un avis d'une commission spécialisée, un avis pour l'attribuer à la clinique COS, la clinique privée de BG, pour faire simple. Et donc les Clermontais, je dirais, sont montés au créneau d'une manière globale, autant l'hôpital que le comptoir médical. Et ce qui est demandé actuellement à l'ARS, c'est de sursoir à cette attribution à Béziers pour faire revenir l'équipement sur Clermont-l'Hérault. Voilà où nous en sommes. Nous en sommes que là. Et il y a deux demandes avec l'ARS et je dirais le CHU aussi qui souhaitent qu'il y ait une entente surtout entre l'hôpital et le privé de façon à ce qu'on donne pas une mauvaise impression territoriale et que ce soit vraiment une demande globale du Clermontais pour avoir un outil sur Clermont-l'Hérault. Qu'on fasse 500 mètres à droite ou 500 mètres à gauche, c'est pareil, mais au moins qu'on ait cet outil-là. Par contre, le lot des voies se manifeste depuis quelques petites semaines, car ils craignent énormément que l'arrivée d'un scanner sur Clermont-l'Hérault fasse baisser la fréquentation du scanner de l'ODEV, et qui est privé, c'est dans l'enceinte de l'hôpital, mais c'est un scanner privé, et que le gestionnaire, tout bêtement, le gestionnaire de ce scanner décide d'en arrêter son fonctionnement parce que baisse d'activité. Donc nous sommes un peu en tension avec les collègues de l'ODEV là-dessus. Mais il n'y a pas de réponse pour l'instant. Voilà pour le scanner. Oui, Marie, ben, allez-y, allez-y.
Oui, c'est un sujet très très important, naturellement, ce scanner. Je suis vraiment désolée que sur Clermont-l'Hérault, il y ait eu deux demandes en même temps, une demande de l'hôpital et une demande au niveau du comptoir. Donc déjà ça, pour nous, c'est évident que voilà, ça peut pas fonctionner et que l'ARS ne pouvait pas, il lui était difficile à elle de faire un choix. En tout cas, ce que peut-être on peut dire quand même, c'est qu'il y a eu au niveau de l'ARS, tous ces projets ont été vus. Il y a eu sur Clermont-l'Hérault, au niveau du comptoir, une possibilité plus importante qu'il soit attribué au comptoir. D'accord? Donc, moi, ce que je vous demandais, c'était de se mettre en ordre de marche pour que effectivement, il arrive sur Clermont-l'Hérault. Et si c'est au comptoir, c'est au comptoir. D'accord? Parce que nous, on a une population, il faut qu'on pense à notre population et qu'on arrête de faire des projets, plusieurs projets en même temps, parce que sinon, ça ne peut pas fonctionner. Ce qui se passe sur le dev maintenant, voilà, ok, on n'en parle plus, il va y avoir un nouveau scanner, puisque... ces jours-ci, d'après ce que j'ai compris.
Il marche, il fonctionne.
Voilà, il fonctionne, c'est très bien. Maintenant, nous, les élus, il faut qu'on soit derrière ce projet parce que c'est le seul qui pourra aboutir et qui peut effectivement être en concurrence avec celui de la clinique COS. D'accord ?
Il l'est.
Et qu'il l'est, effectivement. Pour l'instant, c'est encore en discussion. Donc moi, je vous ai envoyé un message pour que vous puissiez, nous, les élus, qu'on puisse aussi... appuyer, nous tous, notre force. Donc aujourd'hui, c'est bien que ça soit mis sur la table et qu'on puisse effectivement parler de ça.
Tout à fait, mais c'est très bien. Par contre, je rappelle, alors deux choses, bon, en termes de soutien, ce que les 21 maires de la communauté de communes, dont vos représentants, ont signé un courrier pétition, 20, oui, exactement, parce qu'il y en a un qui n'a pas pu signer. On signait un courrier pétition au niveau de l'ARS pour faire venir le scanner sur Clermont-l'Hérault. Ça a été fait déjà une dizaine, 10 jours à peu près. Par contre, ce n'est pas l'hôpital de Clermont qui demande un scanner, qui a fait la demande de scanner. C'est le CHU de Montpellier, le CHU de Montpellier, dont fait partie évidemment Sète, Béziers, Clermont-l'Hérault, Lodève en partie, etc., etc. C'est le CHU qui souhaite développer sur Clermont-l'Hérault une antenne du CHU, disons quelque chose de plus conséquent pour le cœur d'Hérault. Il y a deux projets physiques, hein. Il y a un développement de l'activité du CHU sur Clermont-l'Hérault et sur le Biterrois, tout en renforçant le Lodévois. Mais, oui, c'est le diabète, oui. Mais, donc, ne pas confondre, l'hôpital n'a rien demandé lui-même, sa directrice n'a rien demandé, c'est le CHU qui souhaite développer l'activité sur le Clermontais. Moi, je souligne une chose. Là où je rejoins la plupart d'entre nous, je dirais, pour pas dire à 100%, c'est l'objectif premier, c'est qu'il soit sur le territoire. À droite ou à gauche, c'est nos concitoyens, plutôt que d'aller à Montpellier faire la queue, plutôt que de passer des heures et des heures sur la route et à attendre et avoir des rendez-vous à rallonge, vu la population que nous avons sur notre territoire et qui ne s'arrête pas de croître, il est nécessaire qu'il y ait cet outil sur Clermont-l'Hérault, sachant que si cet outil arrive à être sur Clermont, quel que soit le lieu, ça préfigure aussi la possibilité d'avoir un IRM derrière, donc une panoplie un peu complète. Si nous ratons le coche, a priori, sur Clermont-l'Hérault, pendant 10 ans, il risque de ne pas se passer grand-chose. Donc, soyons vigilants là-dessus. Les propriétaires, je vais vous parler de l'Odève, et là, il faut être clair là aussi. L'Odève, donc, c'est un propriétaire privé, hein, c'est un groupe privé de radiologues, et qui nous dit, là, en ce moment, hein, qui dit au Lodévois, plus qu'à nous directement, mais qui dit, attention, moi, si je n'ai pas mon chiffre d'affaires, je dégage, je m'en vais. La mutualiste sur Gignac veut arriver avec un scanner aussi. Donc, les enjeux sont énormes, et moi, je vous dis, je répète et je le dis publiquement, arrêtons la guéguerre entre les deux épiceries, là, parce qu'on va au carton et on va tout perdre. On va tout perdre. Donc, il faut défendre, élus, citoyens, concitoyens, tout le monde, que l'ARS donne le feu vert pour avoir des gens, territorialement, un outil enlevé à Béziers, puisqu'il y avait une préaffectation. Une préaffectation, c'est tout. Et c'est une commission qui a donné un avis. C'est-à-dire que le patron, le directeur de l'ARS, c'est lui qui signe le courrier, qui dit je le mets là, il le met où il veut. Hein, c'est son métier, hein, c'est normal que ça se passe comme ça. Donc attention à tout ce qui circule, il y a tout et son contraire qui se dit. Nous sommes en pleine discussion, en plein débat là-dessus, pour essayer d'avoir le scanner, auprès de l'ARS, hein, pour essayer d'avoir un scanner sur Clermont-l'Hérault. Je crois que c'est ce qu'il faut retenir et défendre. Et s'il y a une deuxième étape, on verra bien, s'il est attribué ici, à nous aussi, territorialement, d'être intelligents pour voir de quelle est la manière optimale que cet objet se pose quelque part. Mais j'espère, s'il est attribué sur le territoire, qu'on arrivera à trouver une solution. Les uns et les autres, bien sûr. Le public et le privé. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions à ce sujet? J'essaie de faire une synthèse. Claude.
Oui, bon, moi je trouve que ce que dit Marie a du sens. C'est vrai qu'il faut qu'il soit sur le Clermontais, mais il faut qu'il soit installé quelque part où il y a les personnes qui ont la compétence pour le faire fonctionner. Donc à nous de savoir, soit on est dans un clivage public-privé, donc on continue à être côté gauche, côté droit, et puis au milieu, ben, il se passe rien. Et justement, et le milieu fera que ça partira sur Béziers. Donc je crois que, enfin moi j'ai eu été en contact tout à l'heure avec quelqu'un du comptoir médical, parce que j'aime bien aller chercher mes renseignements à la source. Ce qui m'a été dit, c'est que si c'était installé au comptoir médical, les personnels, ça serait accessible complètement à l'hôpital, ça serait gratuit, et que bon, les gens ont l'air d'être dans ce consensus. Et ce qu'on m'a dit aussi, ça, je peux pas le vérifier, mais que jamais, jamais, des médecins de Montpellier viendront à Clermont, puisque chez eux, ils n'arrivent pas à faire le boulot, quoi. Donc ils sont déjà surchargés là où ils sont,
et on ne voit pas comment il pourrait venir à Clermont. Donc je pense que, moi je partage assez le point de vue de Marie, il y a des moments où il faut peut-être être dans le bon sens plutôt que d'être dans des clivages politiques. Voilà.
Mais tout à fait d'accord, et je le répète, on défend, oui, ce que je vais proposer, on défend l'arrivée d'un scanner sur Clermont l'Hérault. Et accessoirement, comme on dit, Marie l'a dit, tu le dis, je l'ai dit tout à l'heure aussi, et d'autres le disent, qu'il soit à droite ou à gauche, c'est pas l'essentiel de la démarche d'aujourd'hui. La démarche d'aujourd'hui, c'est arriver à ce qu'on le capte ici. Et je vous propose, j'allais y venir, Claude me le rappelle, c'est ce que je vous propose ce soir, c'est de voter une motion en conseil communautaire, les maires, hein, communes déjà c'est fait, mais en conseil communautaire pour défendre l'idée que le scanner, etc., je vous la lis pas, elle n'est pas écrite là, mais que le scanner vienne sur la commune de Clermont, la commune, là, faut cibler, hein.
Non, mais
la commune de Clermont-Léon, défendre un projet, si on se positionne sur un projet, j'ai peur qu'on perde tout.
Non, mais la démarche a été enclenchée, parce que Marie, ce qu'elle propose, c'est très bien. On l'a déjà enclenché, puisque nous, soit élus ou tout simplement le lambda du territoire, donc on a fait le choix que ce soit sur Clermont-Léraud. Après,
c'est ce que je viens de dire.
Si le comptoir est prêt à accueillir, ben, peut-être qu'il faut se dire, après tout, on ne va pas attendre une éternité, autant prioriser le comptoir. Puis pour
Gérald, l'hôpital est aussi prêt à accueillir.
Mais...
Si on se démarque, enfin, on va le décider ensemble, hein, je vous donne aussi mon avis, hein. Si on se commence à se démarquer avec deux tendances aujourd'hui, ce qui est un peu le cas à Montpellier, hein, on donne un peu cette image, on prend un risque énorme que ce soit le troisième qui l'obtienne. Maintenant, les collègues, c'est facile, hein, on se prononce démocratiquement et tranquillement et sereinement, hein, il n'y a aucun souci là-dessus. Hein.
Non, je t'ai simple, voilà, Jean-Claude, je peux.
Bien sûr. Ouais.
Je tiens simplement à rappeler que lors de la commission qui s'est déroulée, je crois, courant, si je ne me trompe pas, septembre, je veux dire, les demandes qui ont été faites, le comptoir médical a eu un avis favorable par rapport à l'ARS là-dessus. Donc elle est arrivée devant, je veux dire, ce projet est arrivé devant le projet de l'hôpital. Donc à ce jour, si on en tient compte, si on tient compte de la commission, le premier projet, c'est Béziers. Le deuxième, c'est le comptoir médical. Et le troisième, c'est après l'hôpital. Donc maintenant, il faut trouver un consensus. On a la chance d'avoir les radiologues sur site. Et il faut savoir que ce soit à l'Odève ou à Bédarieux, on a un gros souci puisque les radiologues ne sont pas sur site. Nous, à ce jour, on a une dizaine de radiologues, voire 11, je crois exactement. Donc, on s'en tient à la commission qui a été, comme on dit, qui a amené un avis, ce sont des spécialistes. Donc à ce moment-là, il faut appuyer qu'un seul projet pour qu'on ait le maximum, et c'est et celui-là qui sera le plus viable, tout simplement. Et c'est ce qu'on a déjà engagé. On a déjà engagé la démarche puisqu'on a déjà signé une première partie, mais maintenant, il faut, comme on dit, terminer, tout simplement.
D'autres interventions ? Laurent et Claude.
Rapide. Moi, pour la motion, si elle est votée, plutôt que de l'envoyer par voie électronique ou par courrier, on met nos écharpes et on va la porter. Parce que je pense qu'il faut qu'on se monte. Si on veut défendre notre territoire, les maires, il faut qu'on aille au combat. Et aller au combat, c'est pas simplement signer une pétition. Je me rappelle, bon, pour le combat d'Airy France, si on avait fait un courrier qu'on avait envoyé à l'époque à Macron et à Sapin, eh bien, les 110 postes à Airy France, ils n'existeraient plus.
On les aurait perdus, exactement. Je vous rappelle que je vous l'ai proposé il y a 10 jours, ça. Laurent.
Oui, juste par rapport à la position de l'ARS, moi, le problème que j'ai avec l'ARS, c'est qu'elle favorise aujourd'hui le privé. Surtout son PRS, hein. Surtout son PRS, elle favorise le privé. Et moi, je tiens beaucoup à la santé publique. Alors, je suis bien d'accord avec ce que tu dis sur la priorité qu'a donnée l'ARS au comptoir par rapport au centre hospitalier. Mais si le CHU veut faire de l'hôpital de l'Odève, de Clermont, excusez-moi du lapsus, de Clermont, un fer de lance de je ne sais pas quoi, mais j'imagine de choses qui sont intéressantes pour le Clermontais et pour Clermont-Léraud, c'est à réfléchir. Pour ça, moi, ça m'ennuie de faire une motion comme ça un peu fourre-tout, où on ne sait pas vraiment où on va. Moi, j'aimerais qu'on rappelle l'intérêt de l'hôpital public pour une santé pour tous. et qu'on ne privatise pas les outils de la santé publique. Après, après la réalité s'imposera à nous, mais au moins qu'on avance des choses qui sont... Alors je ne vais pas non plus faire le vieux gauchiste, mais quand même, là je trouve qu'on abandonne des pans entiers de la santé publique, voilà, ça me désole.
Non mais, c'est pour ça que je ne souhaite pas rentrer dans un débat public-privé, je rappelle simplement que la gestion du scanner à l'ODEV, c'est géré par du privé. Donc la gestion du scanner, s'il venait à l'hôpital, serait gérée par du privé. Donc arrivé à un moment...
Non, ça c'est pas vrai.
Mais c'est les sources que j'ai. Là maintenant, après... Moi, je peux le certifier. Mais à partir de là, je veux dire, il y a une commission qui a donné une position. Je veux dire, il faut la suivre. Il faut savoir quand même, quand on a inauguré le comptoir médical, quand on a fait la présentation, qu'on a visité les locaux, déjà, il était positionné. Donc, arrivé à un moment, je veux dire, il y a une commission de professionnels qui est l'ARS, qui donne un avis. Quand même, je trouve qu'à la place de s'éparpiller, il faut, comme on dit, s'en remettre à l'évidence. Il ne faut pas reproduire ce qui se passe, je veux dire, à l'ODEV ou à Bédarieux. Je veux dire, après, arrêter, je veux dire, essayer d'y aller le week-end, souvent, je veux dire, c'est pas toujours très simple, mais et en plus, on n'est pas concurrent. Je veux dire, c'est deux zones différentes. C'est ça, je veux dire, les gens de Carmont ne vont pas à l'ODEV. Je veux dire, on n'est pas en concurrence. Donc, c'est un besoin qu'on a sur l'Interco, tout simplement.
Là, nous sommes tous d'accord.
Et à ce moment-là, on le met sur Carmont-Lérault, et il faut arrêter de dire qu'on va prendre, comme on dit, des patients à l'ODEV. C'est complètement faux. Voilà.
Oui.
Je suis pas souvent d'accord avec Monsieur le maire de Clermont, mais là, je crois que je le rejoins parce que il y a une équipe, il y a quand même une équipe en place.
On va voir la parole.
Voilà, ouais. Il y a une équipe qui est en place, qui est au comptoir médical pour pas les citer. De toute façon, à un moment donné, le patient qui va aller passer un IRM, le patient à un moment donné, le scanner, c'est pareil. À un moment donné, il y a une dépense qui est faite. Si on le met dans un service public comme le CHR, hein, de toute façon, qui c'est qui paye le CHR? C'est les impôts de tout le monde. Bon, alors à un moment donné, qu'on soit dans un hôpital, qu'on soit chez un privé, à un moment donné, moi je crois que le service il va être rendu, c'est tout.
Mais on a
des professionnels qui sont déjà en place. Hein, et qui payent les impôts, bien sûr.
À Montpellier.
À la communauté commune.
Mais peu importe. Ce qu'il faut dire aussi, j'essaie d'être le plus objectif possible, moi, c'est que on a parlé aussi de tarification. Chez le privé plus cher, chez le privé moins cher. C'est pas vrai, hein, c'est pas vrai. Hein. Tout le monde, les deux parties sont d'accord et annoncent que ce sera pareil. Hein. Donc déjà, il n'y a pas de dépassement. Pour le moment, il n'y a rien. C'est lissé pareil. La patientèle, qu'elle aille à l'hôpital ou au comptoir, c'est la même, c'est exactement pareil, il n'y a pas de tri, il n'y a pas de sélection, il n'y a rien du tout. Le prix aurait pu impacter, mais ce n'est pas le cas. Hein. Par contre, s'il y a un scanner public, Salva se trompe, il ne sera pas géré par du privé, puisque c'est le CHU qui l'aura. Hein. Donc ce sera géré par du public. Et ce n'est pas du tout la formule de l'ODEV.
Juste, Jacques, je peux...
Claude.
Juste pour... je sais pas, mais à un moment, on est des grands garçons. Et quand on est des grands garçons, on essaie de prendre des décisions. Parce que là, j'ai écouté un peu tout le monde. Pas tous, mais certains, beaucoup. Et je me rends compte qu'on n'est pas capable de dire on va soutenir tel projet. Oui, d'abord, j'ai écouté en général. Moi, je crois qu'à un moment, on dit, bon, ben, qui est le mieux placé? Le comptoir médical. Eh ben, on soutient le comptoir médical. Point. On ne tourne pas autour du pot pendant deux plombes en disant peut-être que l'hôpital public, peut-être que le marché, peut-être le truc. Parce que si on continue comme ça, le scanner, il ira ailleurs. Donc, à un moment, on prend une motion, on dit, on soutient l'hôpital, on soutient le privé parce que c'est le mieux placé, et puis terminé. Mais soyons sains dans notre pétition, dans notre décision et dans notre démarche. Parce que ne croyons pas dire, mais peut-être que, si c'était l'hôpital le mieux placé, on dirait dans notre motion, on soutient le projet de l'hôpital. Mais à partir du moment où c'est le privé, à un moment il faut y aller, quoi, sinon on n'aura rien.
Alors, d'autres, je passe rapidement peut-être à d'autres interventions. Oui, Serge.
Oui, moi je rejoins tout à fait Salva, je rejoins Claude et autres, puisque quand même, me semble avoir entendu et avoir eu l'information il y a un mois qu'il y a une commission qui s'est tenue à Toulouse où le comptoir médical a été par 13 voix ou 17 voix, je ne me rappelle plus, choisi par rapport à l'hôpital de Clermont. Donc, arrêtons de nous cacher les choses. Hein. On le sait, c'est vrai, ça a été dit. Alors maintenant, on prend l'option. Et là, je te rejoins complètement, parce que quand vous me dites la gestion des scanners, la gestion du scanner de l'ODEV, il est fait dans l'hôpital public, il est fait par la clinique du parc. Que je sache, la clinique du parc, c'est un privé.
C'est privé.
À Médarieux, c'est Garli. À Pézena, c'est Garli. Et s'il va à
l'ODEV,
il ira chez Cosse. Donc c'est du privé. Donc, à un moment donné, il faut avoir la j'allais dire un gros mot.
Tu peux le dire.
Bon, il faut savoir prendre la responsabilité. On veut le scanner à Clermont. S'il a été choisi au comptoir médical pour les raisons, parce qu'il y a 21 spécialistes qui viennent au comptoir médical à Clermont et qui sont capables d'interpréter, parce qu'il y a toute la structure de radio, d'échographie et autres qui sont installés sur le comptoir médical, ne faisons pas du chichou à la bon. Le public, le privé, c'est, je veux bien, mais on ne va pas pénaliser le Clermontais pour ça. Et si le CHU veut monter quelque chose à Clermont, à l'hôpital de Clermont, comme il va falloir 10 ans pour qu'il le monte, qu'il obtienne un truc, et puis qu'il le fasse en parallèle, et dans 10 ans, il y aura deux scanners à Clermont.
Ça, c'est pas gagné, ça. Bien, les collègues, je pense qu'on a à peu près les avis des uns des autres, très globalement. Si certains ne se sont pas exprimés, ils pensent comme certains d'entre nous. Donc, pour le principe d'une motion, qui est contre? Pour le principe d'une motion, qui... Quelqu'un a dit contre? T'es contre une motion? D'accord, ok. Le principe d'une motion défendant, j'essaie d'être fidèle à défendant un scanner sur l'établissement privé, comptoir, etc., etc., qui est contre? Donc, à l'unanimité, nous sommes bien d'accord. Voilà. C'est fait. Donc, la motion, mais... C'est bien le débat, il le fallait ce débat quand même. Et on arrive à l'unanimité surtout. Et dernier point, Scott, qui est un jeu, je vais essayer de le faire vite, mais un jeu très important. Je vous rappelle, surtout je m'adresse au maire là, et éventuellement aux adjoints à l'urbanisme, on doit se retrouver mardi prochain pour parler du Scott, puisqu'on arrive à une phase... qui commence à devenir très importante, très impactante pour notre territoire. Le SCOT, c'est les trois communautés de communes. Hein. Donc, mardi matin, on vous convie, maire ou adjoint à l'urbanisme, ou élu, collègue qui a la fibre urbanisme, on se retrouve à la communauté de communes pour faire un point là-dessus, les enjeux qui vont derrière, et l'échéancier, puisque on devrait, courant janvier-février, avoir pris des délibérations au niveau du pays, bien sûr, au niveau du pays, avoir pris des délibérations sur l'orientation sévère, pas des intentions en l'air, l'orientation sévère du développement, tout simplement, des trois communautés de communes, dont le SCOT est impactant pour les PLUI, nous ne sommes pas concernés, mais pour nos PLU, c'est-à-dire que si dans nos PLU, il y a des choses décrites, qui ne sont pas en phase avec les orientations du SCOT, elles seront invalidées. Je le fais vite là. Donc, mardi matin, par contre, on en parle, on peut répondre à vos questions, voir notre positionnement aussi, puisque c'est un dossier qui a bien avancé. Tu l'as, à quelle heure on l'a calé? Non, 10 heures. Joseph. Adjoint. Élu à l'urbanisme et maire, oui.
Oui, je voudrais revenir sur un point qui a été effleuré lors du précédent. C'est bon ? Lors du précédent conseil communautaire, à savoir l'accord local. Donc j'ai reçu l'arrêté du préfet, et à ma grande stupéfaction, j'ai vu que certaines communes n'avaient pas délibéré ou absence de positionnement. Je dois vous dire ma surprise à la lecture de cet arrêté. Alors il y a la place de Clermont-Lérault qui a exercé un pouvoir un peu hégémonique sur les autres collectivités. J'en suis désolé, parce que ici on parle beaucoup de solidarité. Là, on donnait la parole à certaines communes
qui n'avaient qu'en représentant, on leur donnait la possibilité d'en avoir deux, et là on leur a coupé l'herbe sous les pieds. Enfin, je suis désolé, mais bon, ça va aussi pour d'autres communes qui ont pas, qui se sont pas...
Je te suis à 200%, hein. Je me suis exprimé largement là-dessus,
Ça sera pas oublié.
J'ai plaidé pour que le conseil communautaire puisse s'élargir un peu au bénéfice de petites communes, enfin bref, ça déséquilibrait pas grand-chose, et ça n'a pas pu aboutir, donc la situation est inchangée, puisque l'arrêté, comme le dit Joseph, est arrivé. Bien. Merci à tout le monde. Après ce long débat, bon apéro.